Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Frédéric Simotel.
Bonsoir, bienvenue dans Tech & Co. Nous sommes ensemble de 20h à 22h. Ce soir avec au sommaire, bien dans un instant, la Banque Postale qui annonce la création d'un fonds d'investissement dédié au FinTech, cybersécurité, AssureTech, doté de 150 millions d'euros. On va en parler dans un instant avec déjà des premières prises de participation chez Carbo, Cashby, Joe et Cosmian. On parlera aussi 5G avec le patron de Bouygues Télécom qui sera là pour le décollage de la 5G industrielle. Enfin, pourrait-on dire, on verra tout cela avec lui. Et puis n'oubliez pas notre débrief 21h, 22h, on a beaucoup de sujets. Hein. L'association des 40 acteurs autour du métaverse, un syndicat chez Apple, voilà, il y a beaucoup de sujets. On parlera de Uber aussi, qui est en train de revoir ses anciens modèles. Voilà, on est ensemble pendant, eh bien, pendant 2h, hein, n'oubliez pas, jusqu'à 22h sur BFM Business.
Tech & Co, le JT de la Tech.
Et on aura l'occasion d'en reparler dans un instant avec le patron de Bouygues Télécom, mais après un démarrage un peu poussif, hein, en raison de la pandémie mondiale, des pénuries de composants, ben, la 5G semble enfin trouver son public. Malgré l'inflation, le pouvoir d'achat, d'après des prévisions d'Ericsson, eh bien, les abonnements mobiles 5G devraient atteindre 1 milliard, d'ici à fin 2022, et même atteindre plus de 4,4 milliards d'ici 2027, donc sur 9 milliards, donc pratiquement un peu moins de la moitié, à peu près la moitié même des abonnements qui au mobile qui pourraient passer en 5G d'ici 2027. Donc voilà, le marché mondial est en train de décoller. Alors, on parie sans doute plus sur la 5G industrielle et on aura l'occasion vraiment d'en reparler dans un instant. Et puis, une transition qui a quand même été retardée dans les pays émergents. Alors, le Covid, bien entendu, mais la couverture globale va tarder un petit peu à se déployer. Il y a encore un long chemin à parcourir, nous disent les experts. Ils prévoient également que les connexions sans fil fixe 5G augmenteront de 160% pour atteindre 7 millions dans le monde en 2022, 83 millions de connexions 5G à horizon 2026. Donc, et on aura beaucoup évidemment d'applications industrielles, du ce qu'on appelait le M2N ou le M2M, machine to machine, ou l'internet des objets. Donc beaucoup de nouveautés dans le domaine. Autre sujet ce soir, quel rôle va jouer le gouvernement dans la restructuration d'Atos? Le ministère de l'économie s'est dit attentif à préserver les intérêts français du groupe après sa déroute boursière il y a 10 jours. Thales, Orange, Airbus rêvent de rafler la pépite dans la cybersécurité, la pépite d'Atos. Mais en coulisses, un seul a les faveurs de l'État. On écoute ce que nous en dit Mathieu Pecheperti.
Ils sont trois concurrents à rôder autour d'Atos, mais c'est Thales qui multiplie les soutiens au sein de l'État. D'abord celui du ministère des Armées, client d'Atos dans la cybersécurité. Il est très soucieux que cette branche soit rachetée par un groupe présent dans la défense et milite pour la création d'un champion français dans cette activité très stratégique. Ensuite, Bercy, qui est le premier actionnaire de Thales avec 26% de son capital. Le ministère de l'économie verrait d'un bon œil une consolidation de la filière française. Le directeur du Trésor, Emmanuel Moulin, et même administrateur de Thales. Il valide de fait sa stratégie d'avoir tenté ces derniers mois des offensives sur Atos, nous explique un dirigeant de Thales, même si l'intéressé nous dément de jouer tout rôle actif dans le dossier. Thales reste en tout cas beaucoup plus déterminé que ses deux concurrents. La cybersécurité est au cœur de sa stratégie, alors qu'elle l'est moins chez Airbus. De son côté, Orange manque de moyens et l'arrivée de deux nouveaux dirigeants n'incite pas l'opérateur aux grandes manœuvres.
Oui, et puis ce que disent beaucoup d'experts aujourd'hui, c'est que ce qu'il faudra en France, c'est un gros acteur important dans la cyber. Donc on va voir si c'est à la consolidation qui va sans doute se faire. Il faut quand même voir qu'on ne pourra pas continuer comme ça avec autant d'acteurs, de gros acteurs sur la cybersécurité. Il en faudrait un fort. Pourquoi pas Thales, pourquoi pas Airbus? Il y en a d'autres qui pourraient aussi se manifester. Et pourquoi pas Dassault Systèmes? Allez, on va suivre tout ça, bien entendu, et notamment avec les enquêtes de Mathieu Pecheperti. Parlons de Netflix, qui en dit plus sur ses ambitions dans la publicité. Un virage stratégique pour le groupe qui compte sur ses offres moins chères avec de la pub pour se relancer. Vous savez, on a vu le niveau d'abonnement baisser un peu. Il est clair que Netflix veut aller très vite aujourd'hui, changer un peu son modèle. On écoute Simon Tenenbaum.
C'est une intervention qui était très attendue. Ted Sarandos, le co-PDG de Netflix, s'est rendu pour la première fois au Cannes Lions, le plus grand rendez-vous du secteur de la publicité organisé chaque année sur la Croisette. Et il confirme, Netflix va lancer une offre avec de la pub pour toucher un nouveau public et générer de nouveaux revenus.
Jusque-là, nous avons laissé sur le côté beaucoup des gens qui pensent que Netflix est trop cher, mais qui ne seraient pas dérangés par de la publicité. Donc, nous allons ajouter une offre avec de la publicité pour ceux qui veulent payer moins cher.
Et pour réussir ce virage stratégique, Netflix va s'appuyer sur des partenaires, indique Ted Sarandos. La plateforme ne dispose pas en effet des équipes et de la technologie pour vendre et intégrer des publicités. Nous discutons avec tout le secteur en ce moment, confirme le dirigeant. Google, Comcast, Roku sont régulièrement cités. Netflix veut-elle éviter fort pour reprendre la main? Après les pertes d'abonnés et l'effondrement de son cours de bourse, le groupe est attendu au tournant.
Oui, on va voir comment va se tourner Netflix avec ce nouveau business model. Voilà ce que nous en disait Simon Tenenbaum. Allez, on poursuit BFM Business Tech & Co. Nous allons recevoir dans un instant Olivier Lévy-Barouche, c'est le patron de la Banque Postale en charge de la direction finance et stratégie. Un fonds d'investissement 150 millions d'euros pour les fintechs, les assurtechs, la cybersécurité. Il sera accompagné de Marc Tempelman, le cofondateur de CashBee. C'est tout de suite sur BFM Business.
BFM Business présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Frédéric Simotel.
Les startups, ça fait un moment que les startups sont au cœur de la stratégie du groupe La Poste. Et bien là, ils sont aussi au cœur de la stratégie d'innovation de la Banque Postale. Et on va en parler avec Olivier Lévy-Barouch. Bonsoir.
Bonsoir.
Olivier, merci d'être avec nous, directeur général adjoint de la Banque Postale en charge de la direction finance et stratégie. Et puis vous êtes accompagné de Marc Tempelman. Bonsoir Marc.
Bonsoir.
On vous a déjà vu venir sur ce plateau-là, cofondateur, président de CashBee. Et on va voir un peu le lien qu'il y a entre vous deux, parce que justement, la Banque Postale annonce la création d'un fonds d'investissement, alors early stage, dédié aux fintech, aux assurtech, à la cybersécurité, 150 millions d'euros. Ma première question pour vous, Olivier, pourquoi maintenant? Pourquoi ce fonds spécifique autour, et puis bon, ces trois domaines, on imagine, sont quand même autour des métiers du groupe, entre les assurances, la finance, la cyber, à travers tous les métiers de la confiance numérique qui font partie de l'ADN de La Poste.
Oui, sont autour des métiers du groupe, la Banque Postale. Pourquoi maintenant? C'est un second step. On a eu un premier step il y a 3 ans avec la création de Plateforme 58, l'incubateur de la Banque Postale. CashBee est d'ailleurs dans l'incubateur de la Banque Postale. Nous avons aujourd'hui 41 startups qui sont incubées chez nous, à qui nous donnons le gîte le couvert, mais qui est également un parrain ou une marraine au COMEX de la Banque Postale. C'était un premier step, et maintenant, sur le fondement du plan stratégique de la Banque Postale qu'on a porté sur les fonds baptismaux il y a un peu moins de 2 ans maintenant, ce plan stratégique, il est très axé sur la digitalisation, sur la qualité de service, et sur le renouvellement du modèle de la banque et de l'assurance de demain. Et pour ça, nous souhaitons nous appuyer sur des jeunes pousses de la tech, d'où notre intérêt pour des startups et ce fonds de 150 millions, comme vous l'avez dit.
Qui s'appelle 115K.
Qui s'appelle 115K, pourquoi? Parce que la Banque Postale est 115 rue de Sèvres. Et donc d'où ce fonds qui est dédié à la fintech, à la surtech, à la cybertech, à la regtech, avec pour objectif, comme Plateforme 58, de favoriser l'innovation systématique pour la croissance organique et pour la croissance externe au sein de tous les métiers, direction et filiales du groupe La Banque Postale.
Quand on regarde vos concurrents, ils se sont lancés beaucoup plus tôt. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, je pense à l'ASG, BNP Paribas, qu'est-ce qui a fait que vous, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui a été un peu l'élément déclencheur?
D'abord, la Banque Postale, on est une banque un tout petit peu différente parce qu'on est une banque très jeune. Nous n'avons que 16 ans. Ouais. La Banque Postale, c'est une banque qui a été créée il y a 16 ans. Sur le fondement des services financiers de la Poste. Donc, on s'est d'abord occupé de consolider le modèle, de diversifier le modèle, de croître en France comme à l'international. Et maintenant, comme je vous le disais, est venu le moment de cristalliser une avance concurrentielle sur certains produits, dans certaines niches, pour certains métiers. Et pour ça, nous souhaitons nous appuyer sur des startups.
Avec des critères, de secteur, fintech, assurtech, cybersécurité, donc liés un peu à l'ADN de l'ensemble des activités du groupe. Ce serait combien, donc je parlais de 150 millions d'euros, ce serait combien d'investissements par an c'est toujours difficile, mais enfin vous ciblez, pour les premiers. Là, il y a quatre sociétés que vous suivez.
La thèse d'investissement de 115K, elle est finalement assez simple. Les secteurs, vous les avez cités. La zone géographique, c'est de la France d'abord, puis de l'Europe et également Israël sur la cybersécurité pour des raisons évidentes. Nous sommes un fonds un peu différent parce que nous avons les mêmes caractéristiques que Platon 58 dans l'accompagnement bienveillant. Mais nous avons un horizon d'investissement qui est flexible. Le TRI n'est pas nécessairement ce que nous recherchons à tout prix. À nouveau, ce que nous cherchons, c'est à favoriser l'investissement. Et donc, les start-up que nous allons incuber, on va s'efforcer de respecter deux biais singuliers. Le premier, c'est qu'on va s'efforcer de cibler des start-up dont l'ADN est proche de celui du groupe La Banque Postale, des critères ESG, des critères ISR, des critères proches des articles 8 et 9 de SFDR ou tout simplement des critères citoyens. On ne va pas en faire un biais d'antisélection, on va les accompagner si jamais elles ne sont pas totalement raccord avec nos canons de beauté. Et puis, à nouveau, on va favoriser les coopérations techniques ou commerciales avec les métiers, les directions, les filiales de la banque. Donc, vous voyez bien qu'on crée les conditions de notre propre TRI, mais à nouveau, ça n'est pas un objectif systématique. L'objectif, c'est aider ce tissu de start-up à croître, protéger le patrimoine industriel de la France, le patrimoine technologique de la France, les aider à croître, et également favoriser la croissance de la Banque Postale.
Et puis j'imagine que vous avez appris de vos précédents investissements pour se dire, oui, on peut vivre un grand groupe, on peut vivre en finançant des start-up qui viennent nous challenger, qui viennent compléter certaines de nos activités. On va investir pour les racheter, pour les englober dans notre stratégie.
Non, à nouveau, l'objectif, c'est de favoriser l'innovation. Et quand je parle d'innovation, je parle d'innovation au sens propre du terme. Je ne parle pas de technologie, je parle de la manière dont nous allons créer de la porosité entre un écosystème bancaire et assurantiel qui vend essentiellement des commodités et un écosystème de start-up qui pense différemment, qui est plus agile, qui est plus visionnaire qu'une industrie plusieurs fois séculaire.
Marc Tempelman de Cashby, vous avez eu le temps de vivre aux côtés du groupe La Poste et puis là, pour partir aussi avec ce nouveau fonds. On imagine tout ce que ça peut vous apporter. Quels sont les premiers risques que vous évaluez quand vous associez comme ça un grand groupe?
Bien, vous l'avez dit, un des premiers risques auxquels on s'expose en attirant du capital frais en provenance d'un actionnaire nouveau, c'est de pas très bien se connaître et de pas savoir comment se faire confiance. Or ici, ce problème ne s'est absolument pas posé. Comme ça a été souligné, on a été incubé par la Banque Postale, ce qui est absolument pas une garantie d'ensuite pouvoir se faire capitaliser par le fonds 115, mais en revanche, ça crée des conditions idéales pour justement trouver les bonnes synergies et surtout avoir cette confiance dès le départ. Parce que l'accompagnement a été très très bon et très très concret et très très récurrent durant la phase d'incubation. Et donc aujourd'hui, on est relativement certain de pouvoir se faire accompagner à nouveau avec cette technicité, cette connaissance métier dont on a absolument besoin. Pour ne pas parler de la crédibilité qu'un acteur comme la Banque Postale peut apporter à un métier comme le nôtre, qui est le métier de l'épargne, l'épargne mobile, et qui dépend de la confiance des utilisateurs.
Et du coup, qu'on comprenne bien, vous travaillez, vous avez évidemment, il y a une collaboration qui est favorisé entre Cashby et puis les métiers
qui existent déjà
entre vos métiers, donc les directions, les filiales de la Banque Postale, mais rien ne vous empêche d'aller aussi sortir ailleurs et voir.
C'est là toute la beauté du modèle, c'est que les règles du jeu sont très claires. C'était vrai pour l'incubation, c'était vrai aussi maintenant qu'on a la chance d'avoir 115K à notre capital. Les règles du jeu sont effectivement que nous sommes libres de déployer notre stratégie, mais qu'en revanche à tout instant on peut dépendre de l'aide et du soutien non seulement de 115K mais également du groupe au sens plus large, et qu'effectivement les conditions sont là pour explorer des partenariats commerciaux si elles font sens pour les deux parties.
Ah oui.
Et c'est ça qui est important.
Alors quand je regardais, parce que on a enregistré l'émission Tech & Co Business, émission week-end aujourd'hui avec Cosmian justement, et on voit qu'il y a vous avez des investissements dans deux profils, parce que Cosmian, c'est on regarde un petit peu plus long terme, la rentabilité. Là, on est dans la cryptographie, avec des chercheurs, le temps que tout ça se mette en place, ça prend un peu plus de temps. Cashby, c'est une solution qui est plus B2C, on accompagne les particuliers à guider leur épargne.
Pardon de vous interrompre, quand on a fait connaissance avec Marc, Cashby, c'était un PowerPoint de 3 pages.
Oui.
mais voyez le chemin parcouru depuis, c'est absolument, absolument incroyable.
Donc ça veut dire que vous regardez sur des modèles qui seront un peu plus longs, dans ce domaine-là, il n'y a pas une rentabilité à...
À nouveau, le TRI systématique n'est pas ce que nous recherchons. Nous cherchons à accompagner le développement des startups que nous incubons, dans lesquelles nous investissons. Nous cherchons à favoriser l'innovation pour les métiers, les directions, les filiales de la Banque Postale, et en même temps L'objectif que nous a confié notre actionnaire, c'est d'essayer de réfléchir au renouvellement d'un modèle qui est quand même plutôt en perte, en perte de vitesse.
Alors justement, Marc Tempelman, comment vous travaillez justement avec les équipes de, je disais pour favoriser les collaborations avec les métiers des directions, les filiales de la banque. Comment, quand on est une un jeune acteur dans ce domaine, on vient un peu, j'aime pas trop ce terme disrupter, mais on vient un peu challenger les métiers traditionnels qui vous voient arriver un peu comme ils ont un côté imposant, puissant, performant, alors peut-être un peu parfois vieillissant, mais comment la mayonnaise prend, voilà. Si
alors, le terme vieillissant s'applique à de nombreuses banques, mais justement pas à la Banque Postale, puisque c'est une banque jeune par définition. Néanmoins, vous avez raison, il y a deux façons d'aborder la chose.
On va dire des modèles éprouvés.
Non, mais tout à fait. Et donc deux choses l'une. Soit on se dit les fintech et les grandes banques sont là pour disrupter et donc prendre des parts de marché aux grandes banques, ou elles sont là pour faire évoluer le modèle, collaborer et apporter de la valeur là où les grandes banques auront peut-être plus de mal. Mmh. Et je crois que les deux parties dans le contexte actuel sont dans cette seconde disposition et c'est très très clair. Donc pour prendre un exemple très très concret, l'année dernière on a pu travailler ensemble sur le baromètre de l'investissement responsable. Je crois qu'il est connu que la Banque Postale tient beaucoup à l'investissement socialement responsable. Il se trouve que c'est une de nos valeurs également. C'est pas une valeur qu'on a adoptée, on y croit à mort, et c'était un terrain d'entente relativement facile à trouver pour lancer ce qui n'existait auparavant pas encore, cette mesure annuelle pour voir combien les Français tiennent à l'investissement responsable, combien ils le comprennent ou pas, et comment les choses évoluent dans le temps. Donc, c'est pas nécessairement un accord commercial d'une très grande portée, mais c'est un exemple très tangible de concrètement comment une start-up petite, on l'est encore aujourd'hui, peut travailler avec un grand groupe et trouver des terrains sur lesquels on collabore de façon efficace et surtout à haute valeur ajoutée.
Olivier Lévy-Barouc, c'est ma dernière question. Vous avez aussi, vous aussi appris à travailler avec des plus petits groupes, parce qu'on imagine, il y a des choses aussi qu'il faut enclencher dans des grands groupes, il faut déjà trouver les bons contacts, même culturellement. Enfin, c'est des choses aussi. Et aujourd'hui, vous sentez que même si, comme vous dites, la Banque Postale n'a que 16 ans, mais voilà, l'ensemble du groupe, l'ADN du groupe est beaucoup plus ancien. Est-ce que là, on arrive à créer cette... Comment on fait justement pour créer cette dynamique ?
Il y a vraiment ce qu'on essaye de mettre en place à l'appui du nouveau plan stratégique, c'est favoriser la satisfaction client et par symétrie des attentions, la satisfaction des collaborateurs. La Banque Postale, c'est une banque jeune, on est en train de se développer, on a besoin d'attirer, de retenir, de développer les meilleurs talents, et pour les aider à se développer, il n'y a pas d'autre moyen que finalement les mettre en relation avec cet écosystème innovant qui leur permet de réfléchir à la manière dont ils gèrent leur métier au quotidien, dont ils développent la banque différemment.
Eh bien, merci, messieurs. Donc, Olivier Lévy-Barouc, directeur général adjoint de la Banque Postale, en charge de la direction finance et stratégie. Marc Tempelman, cofondateur et président de CashBee. Donc, ce fonds, 150 millions d'euros. Déjà, 4 startups accompagnées. Donc, CashBee, Carbo, Joe et Cosmian, dont on parlera ce week-end dans Tech & Co Business, dans la cryptographie. Merci d'avoir été avec nous. On va basculer, pas très loin, parce que c'est vrai qu'on est tous pas très loin géographiquement, sur la 5G avec vous, Benoît Tortolin, donc directeur général de Bouygues Télécom. On a beaucoup parlé de vous là ces derniers jours dans le cadre de Vivatech, puisque vous avez signé cet accord avec Ericsson pour déployer de la 5G. Ma première question, c'est on en est où de ce déploiement de la 5G qu'on sent parfois un peu poussif? Alors il faut voir qu'est-ce qu'on appelle poussif dans le grand public, mais est-ce que c'est l'objectif vraiment d'aller vers le grand public? Et puis il y a cette 5G industrielle qu'on aimerait bien voir quand même s'accélérer, mais là c'est peut-être aux entreprises aussi d'accélérer le pas.
Bonjour Frédéric. Alors effectivement, où on étend aujourd'hui de la 5G? Déjà, pour dire les choses simplement, la 5G aujourd'hui, c'est déjà important et utile. C'est utile au grand public, mais le public ne le voit pas forcément. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on déploie la 5G pour apporter de la capacité à nos réseaux mobiles. Les clients en grand public utilisent leur mobile de plus en plus. La consommation de données qui passe par le mobile augmente de 30% par an. Alors, ça paraît pas beaucoup, 30% par an, mais en 9 ans, ça veut dire que ça a été multiplié par 10. Et donc, si je prends une image consistant à dire que nos réseaux sont un peu comme des autoroutes, et en fait, au lieu d'avoir des véhicules à y faire passer, on a des données, des data à y faire passer. Vous voyez qu'une autoroute, quand le trafic est multiplié par 10, à un moment donné, il faut l'élargir. C'est ce que fait la 5G. quand on met de la 5G sur un site où on a déjà mis l'ensemble des fréquences et des appareils 4G, ça double finalement notre capacité à faire transiter ce trafic. Et c'est important pour désengorger, pour que la fluidité soit toujours la même. Parce qu'il y a des endroits déjà aujourd'hui où on doit effectivement désengorger le trafic à venir. Et c'est là qu'on déploie la 5G de manière assez intense néanmoins. On a un déploiement 5G assez, assez intensif.
Oui.
On a aujourd'hui, on couvre plus de 10 000 communes en 5G. On a plus de 7000 sites qui sont passés à la 5G. Et donc déjà aujourd'hui, ça se passe de manière assez intense, sans que ce soit forcément vu par le grand public. Simplement, on continue à avoir du trafic très fluide et une qualité de service optimale pour l'ensemble de nos clients.
Et puis, on est en même temps en train de... Il y a deux déploiements de 5G. Il y a la 5G qui vient se déployer au-dessus de la 4G. Et puis, il y a ce qu'on appelle la 5G standalone, qui est la 5G pure et dure, voilà, où on a des antennes toutes seules 5G.
C'est aujourd'hui, aussi... 5G et 4G sont très liés.
Oui.
D'ailleurs, il faut voir l'ensemble d'une seule manière. 4G et 5G apportent de la capacité, on complète la 4G autant que possible, puis on apporte la 5G. Et d'ailleurs, les deux fonctionnent ensemble. La 5G utilise la 4G pour bien fonctionner. Oui. C'est ce qu'on appelle la 5G NSA, non-standalone. Demain, mais demain c'est très proche, 2023-2024, on va déployer effectivement de la 5G SA, standalone. Qu'est-ce que c'est en fait ? Ça joue surtout sur le cœur de réseau et sur la façon dont le dialogue va se faire finalement entre les antennes et le cœur de réseau. Ça apporte des possibilités nouvelles qui sont surtout utiles, qui vont être utiles surtout au monde industriel.
Oui,
c'est ça. Une latence beaucoup plus faible, par exemple.
Ce qu'on appelle le slicing aussi, on peut découper selon les besoins.
Voilà, une latence plus faible, c'est une capacité de piloter à distance des engins industriels. Oui. Le slicing, c'est une possibilité dans le réseau 5G finalement de découper une sorte de sous-réseau virtuel où on va pouvoir attribuer à un client particulier une qualité de service particulière, une latence encore plus faible pour effectivement un industriel qui en a besoin. On va pouvoir aussi construire des réseaux privés ou des réseaux hybrides. C'est-à-dire si un industriel a besoin dans son usine, dans son entrepôt, d'un apport particulier de la 5G, car il veut avoir beaucoup d'objets connectés, il veut une latence faible, on lui dédie un réseau complet, spécifique, un réseau privé avec une partie connecté au réseau.
C'est-à-dire qu'on arrive à beaucoup mieux avec la 5G, on va réussir à personnaliser un peu les besoins des entreprises, celles qui sont ou monosites ou alors qui veulent, je sais pas, une entreprise de transport qui veut piloter ses camions, ses différents sites logistiques. On a cette capacité-là aujourd'hui.
Voilà, on a pratiquement trois solutions possibles pour les industriels. Mm-hmm. Le réseau privé où c'est entièrement finalement un mini réseau 5G sur une usine. Le réseau hybride où en fait on a à la fois des données locales qui restent locales et une connexion au réseau national si l'objet doit transiter. Et puis la slice, comme vous le dites, c'est-à-dire que sur le réseau Bouygues Télécom national, dédié un sous-réseau virtuel pour l'industriel et pour sa solution. Donc un ensemble de solutions pour les industriels que l'on doit construire avec eux, car eux-mêmes sont aujourd'hui en expérimentation, en recherche d'optimisation.
Et justement, qu'est-ce qui va être pour vous ? Alors on sait que c'est les expérimentations qui vont attirer ensuite le passage à l'échelle, mais parce qu'on sent que c'est ce qui manque aujourd'hui. On voit des expérimentations un peu partout, le port du Havre, on entend des choses faites à droite à gauche, mais on attend un peu vraiment que cette 5G industrielle, elle décolle. Qu'est-ce qui va être pour vous l'élément déclencheur de cette 5G?
Alors, c'est normal qu'on soit aujourd'hui dans des expérimentations avec les industriels, car ces éléments-là changent profondément certains processus industriels.
Oui.
Et donc, un industriel, il ne va pas le changer du jour au lendemain. Il va d'abord vouloir se convaincre qu'effectivement, c'est de la productivité en plus pour lui, c'est de la qualité en plus. Donc, on a forcément une phase conjointe que l'on mène avec des industriels pour que lui-même puisse voir en quoi ça fait évoluer ses process. Et ensuite, il prend une décision de modifier ses process dans une usine, dans toutes ses usines, et là, on va être en déploiement. Et donc, on a un certain nombre d'expérimentations en cours. On est partie prenante du projet Open Road. Mm-hmm. Les constructeurs automobiles, finalement, veulent voir comment le véhicule connecté, véhicule autonome, va mieux se comporter avec des réseaux 5G.
Donc vous êtes en gros, vous êtes en train d'enrichir la vitrine pour montrer tout ce qu'on est capable de faire.
Enrichir les coopérations, c'est des vraies expérimentations conjointes, un vrai travail conjoint qu'on mène avec les industriels, on peut en mener encore avec d'autres, pour trouver la bonne façon de faire parmi toutes les technologies disponibles.
Et puis, aujourd'hui, vous ne fabriquez pas d'équipement, vous quand même dépendez beaucoup de ces équipementiers, notamment Ericsson avec qui vous venez de signer ce contrat. La pénurie de composants, tout ça, quand on est opérateur, on s'en inquiète.
Bien sûr, on doit avoir une vigilance sur ce sujet qui touche beaucoup d'industries. Aujourd'hui, on n'a pas d'alerte particulière car on travaille très en amont avec nos industriels.
Vous êtes tenu au courant.
On donne effectivement des perspectives d'équipement très longtemps à l'avance. Donc, je pense que ça leur permet effectivement de gérer l'ensemble des sujets. Mais c'est quelque chose sur lequel on doit avoir devoir de vigilance de tous les instants. C'est ce que l'on a pour rester effectivement dans une perspective où on peut déployer cette 5G comme on le fait aujourd'hui.
Et Benoît Tortelin de chez Bouygues Télécom, quand vous regardez aussi, alors là, usage un peu plus, je dis grand public, quoique non, il y a aussi pas mal de choses qui peuvent être faites dans le jumeau numérique. Hein, quand on parle du métaverse, et ça va être des débits encore plus importants. Est-ce que ça, vous les appréhendez? Vous dites, bon, on a encore le temps que ça se déploie vraiment, on aura le temps de continuer à déployer des antennes, continuer à déployer de la capacité.
Pour le grand public?
Oui.
Alors, ça se fait conjointement. Hein, le déploiement dont je vous parlais tout à l'heure, hein, de la capacité, finalement, a un rythme maintenant qui va se poursuivre dans les années à venir. On va devoir placer de la 5G au fur et à mesure de l'augmentation des besoins en capacité dans les différentes zones. Et donc, le déploiement de la 5G va encore, sur plusieurs années, permettre de couvrir...
Et vous ne dites pas à un moment, tiens, par rapport à nos plans, justement, ce métaverse, mais aussi, on le dit pour le grand public, mais à la fois aussi pour les industriels qui commencent à voir ces jumeaux numériques, qui commencent à s'ajouter, se dire, là, il va falloir donner un petit coup de boost quand même.
On est déjà en boost. Le déploiement à la fois de la 4G et la 5G, car on est en boost pour déployer encore davantage de 4G dans des zones qui en ont besoin. Apporter de la capacité, c'est aussi déjà apporter de la 4G et la 5G, et ajouter de nouveaux sites, sont des programmes très intensifs. Bouygues Télécom fait 1,5 milliard d'investissements par an, globalement, hein, donc beaucoup sur la partie mobile, pour justement être toujours au niveau en termes de qualité de service. Et pour y être, il faut ajouter beaucoup d'équipements, de la 4G, de la 5G, des nouveaux sites. Donc je peux vous dire que les équipes réseau sont effectivement très mobilisées pour déployer tout ça sur le territoire.
Vous travaillez très en amont avec les constructeurs comme Ericsson, parce qu'on sait, voilà, on sait qu'il y a eu cet épisode Huawei, hein, pour tout le monde, voilà, un équipementier qui a, on va dire, disparu pour cette partie-là, pour des raisons, d'autres raisons que la seule raison technologique. Mais est-ce que vous, ça vous impliquez très tôt avec un Ericsson, pourquoi pas avec un Nokia, enfin avec...
Alors avec tous nos partenaires équipementiers, Ericsson, Nokia, Huawei encore aujourd'hui, pour une partie de notre réseau, on travaille très en amont. C'est nécessaire dans la partie télécom d'être très en amont pour identifier finalement les évolutions technologiques, les roadmaps comme on dit, les travailler, les synchroniser, se préparer nous effectivement à déployer des nouvelles technologies. Donc ce sont les éléments réseau, sont des éléments qui nécessitent une très forte anticipation, et c'est le cas avec nos partenaires, ça fonctionne effectivement comme ça.
Eh bien Benoît Tortelin, je vous invite à revenir bientôt avec un de vos clients justement qui vient de nous expliquer un peu comment il met en place cette 5G au niveau industriel. Ce serait assez intéressant, on essaie toujours d'avoir tous ces cas. Donc merci d'avoir été avec nous, directeur général de Bouygues Télécom. Donc cet accord signé avec Ericsson sur la 5G standalone, sur des cœurs de réseau 5G privé dédié aux entreprises, et on continuera à parler de tout ça. Puis c'est bien de voir que cette 5G elle permet un peu tous ces modèles, hein, de déploiement de 5G. Allez, on se quitte, merci d'avoir été avec nous. On va retrouver tout de suite après une courte pause le journal de l'écho avec Stéphanie Collot, tout ce qu'il faut retenir de l'économie aujourd'hui. Il est 20h30, presque 20h31 sur BFM Business. Merci d'être avec nous. Le journal de l'écho. Bonsoir Stéphanie Collot.
Bonsoir Frédéric.
Et on démarre, on part à Bruxelles où les 27 sont réunis en sommet.
Oui, les 27 se penchent sur le sort des pays candidats à l'adhésion de l'Union européenne et ils approuvent les candidatures de l'Ukraine et de la Moldavie, mais d'autres étaient aussi candidats. À Bruxelles, on retrouve notre envoyé spécial Mathieu Coache.
Non, pas seulement toute la matinée a été consacrée à l'adhésion de 6 pays des Balkans, et autant dire que ça ne s'est pas bien passé. Le sommet a pris 2 heures de retard, la conférence de presse à l'issue a été annulée. Beaucoup de frustration pour ces pays dont certains attendent de pouvoir entrer dans l'UE depuis très longtemps. Alors le record est détenu par la Macédoine du Nord qui a obtenu son statut de candidate il y a 17 ans. L'Albanie, elle, attend depuis 8 ans, et le plus frustrant en fait pour ces pays, c'est qu'ils ne voient pas la lumière au bout du tunnel, loin de là. Aujourd'hui, la Bulgarie a opposé son veto aux négociations avec la Macédoine du Nord pour des raisons historiques, culturelles, ce qui bloque aussi les négociations avec l'Albanie. Et le Premier ministre albanais a prononcé cette phrase qui a beaucoup fait réagir ici à Bruxelles. Il a conseillé aux Ukrainiens de ne pas se faire d'illusions sur le statut de candidat. La suite, en effet, pourrait prendre 15 à 20 ans, a déjà prévenu Clément Beaune, le ministre délégué aux Affaires européennes.
Et Mathieu, les 27 vont aussi examiner la proposition d'Emmanuel Macron de communauté européenne.
Oui, alors cette idée de communauté politique, ce serait en quelque sorte un lot de consolation pour ces pays candidats, une façon pour eux de mettre un pied dans l'UE, l'Ukraine en tête, de renforcer les liens avec les États membres avant l'adhésion, le tout avec une structure juridique plutôt légère, une communauté d'idées finalement, de grandes orientations politiques. Voilà la proposition d'Emmanuel Macron, mais il y a déjà beaucoup de réticences chez les 27 qui doivent en discuter ce soir, et on surveillera les conclusions de ce sommet pour voir si la France a réussi ou non à y faire inscrire cette idée de communauté politique européenne ou si le projet passe tout simplement à la trappe.
Et ce soir, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, salue un moment unique et historique. Demain, les 27 feront aussi le point sur la situation économique de la zone euro avec Christine Lagarde, la présidente de la BCE, sur fond de forte inflation. Et justement, les signes de ralentissement de l'économie se multiplient. Au niveau européen, la croissance de l'activité dans le secteur privé est au plus bas depuis 16 mois, selon l'indice PMI composite. En France, le ralentissement est plus marqué que prévu. L'activité s'essouffle dans l'industrie comme dans les services. L'inflation et les difficultés d'approvisionnement continuent de peser.
Agnès Pannier-Runacher appelle à la sobriété énergétique sur BFM Business.
La France doit réduire sa consommation d'énergie de 10% en deux ans, à commencer par l'État, annonce d'Elisabeth Borne et Agnès Pannier-Runacher. Aujourd'hui, les entreprises gourmandes en énergie s'inquiètent. Faudra-t-il rationner ? Non, répond Agnès Pannier-Runacher. Elle était l'invitée de BFM Business ce soir.
La sobriété énergétique, c'est modifier vos usages. Donc vous êtes une entreprise, vous avez vos personnels qui sont répartis sur deux bâtiments, vous vous organisez pour faire en sorte que, soit par des mesures de télétravail, soit par des mesures de regroupement des bureaux, de tenir compte des gens qui se déplacent, vous n'ayez plus qu'à chauffer un bâtiment. Je donne cet exemple parce qu'il peut s'avérer utile dans des activités où les gens sont beaucoup en déplacement, ce qui arrive, et où en fait, en termes de mètres carrés occupés, vous chauffez deux fois plus de mètres carrés que ce que vous en avez réellement besoin. Donc c'est des évolutions dans votre organisation. Ce que nous devons faire, et l'État doit être le premier, l'État doit être exemplaire, c'est de regarder dans la manière dont nous gérons les hommes, dans nos collaborateurs, dans la manière dont nous gérons nos mètres carrés, si en fait on n'a pas énormément de leviers de réduction de notre utilisation du gaz et de l'électricité.
Agnès Pannier-Runacher ce soir sur BFM Business. De son côté, le gouvernement allemand relève le niveau d'alerte sur son approvisionnement en gaz après la baisse drastique des livraisons de Moscou. La priorité est donnée au remplissage des réservoirs et à la réduction de la consommation. C'est la dernière étape avant des mesures de rationnement. Le gaz est désormais une ressource rare, concède le ministre allemand de l'économie. Dans ce contexte, les industriels européens s'organisent pour trouver des alternatives comme l'hydrogène, et dans ce domaine, eh bien, les annonces se succèdent. Air Liquide va annoncer demain un partenariat avec Siemens Energy et Airbus va s'allier avec le spécialiste du gaz industriel Linde. Explication avec Jean-Baptiste Thuet.
Les grandes manœuvres ont commencé. Pour ne pas rater le virage de l'hydrogène, l'Europe doit être en capacité de produire massivement de l'hydrogène vert. Pour ce faire, elle doit disposer d'un parc important d'électrolyseurs, ces machines qui, avec un courant électrique, séparent les molécules d'hydrogène dans l'eau. Air Liquide et Siemens Energy vont produire en grande série ces électrolyseurs dès le second semestre 2023. L'objectif est d'atteindre 3 gigawatts par an d'ici à 2025. De l'hydrogène vert qui servira avant tout à décarboner les industries et tout particulièrement les raffineries, très grosses consommatrices. Produire l'hydrogène, c'est bien, encore faut-il l'acheminer, le stocker, et là c'est justement l'objet de l'autre partenariat entre Airbus et le géant des gaz industriels Linde. Ils vont développer ensemble les infrastructures pour irriguer le cœur des aéroports, car après la décarbonation des industries, viendra le temps des transports. Air Liquide, Linde, Siemens, des industriels qui maîtrisent la chaîne de production de l'hydrogène depuis de nombreuses années, ils ont donc décidé d'accélérer en mettant leur savoir-faire en commun.
Après McDonald's et Ikea, Nike se retire complètement de Russie. L'enseigne y avait suspendu ses activités depuis 3 mois, mais elle ne rouvrira pas ses magasins. Le site internet ainsi que l'application ne seront plus disponibles dans le pays.
Et puis on poursuit dans l'actualité entreprise. Cette question, quel rôle va jouer le gouvernement dans la restructuration d'Atos ?
Le ministère de l'économie veut préserver les intérêts de Français d'Atos après sa déroute boursière il y a 10 jours. Thales, Orange et Airbus rêvent de rafler sa pépite dans la cybersécurité. Mais en coulisses, un seul a les faveurs de l'État, Mathieu Pechberti.
Oui, exactement. Et c'est effectivement ce groupe de défense Thales qui a les faveurs de l'État, puisque vous savez que le groupe de défense est à la fois un client, un partenaire du ministère des Armées, qui vend des logiciels de combat, aussi de la cybersécurité, comme Atos d'ailleurs. Et puis, le ministère des Armées souhaiterait créer un champion de la cybersécurité, puisque, comme vous venez de le dire, en France, il y a plusieurs acteurs, à la fois Atos, Thales, ainsi qu'Orange et Airbus. L'idée, ce serait évidemment de regrouper ces acteurs qui sont quatre, on va dire, de les regrouper par deux pour essayer d'avoir des champions français dans la cybersécurité. Le ministère des Armées a toujours été favorable à ce genre d'opération. Et puis, l'autre grand ministère qui joue un rôle très important dans ce dossier, c'est évidemment le ministère de l'économie. Bercy est même actionnaire de Thales. Hein, c'est le premier actionnaire de Thales aux côtés du groupe Dassault. Et lui aussi verrait d'un bon œil, en tout cas une alliance entre Thales et Atos, encore une fois, dans la cybersécurité uniquement. Et donc, Thales, on va dire, surfe sur ce soutien des pouvoirs publics et continue l'offensive qu'il a d'ailleurs commencé au mois de février pour tenter de rafler la cybersécurité d'Atos. De toute façon, à la fin des fins, c'est évidemment l'État français qui, on va dire, décidera, puisque encore une fois, il est actionnaire de Thales, mais aussi d'Orange et d'Airbus, et que la cybersécurité est considérée comme une activité de souveraineté nationale.
Et notez ce soir que le titre Atos prend plus de 6% à la clôture. Bonne nouvelle pour Airbus. L'Espagne signe un contrat de 2 milliards d'euros pour 20 Eurofighter de nouvelle génération. Les appareils seront livrés à partir de 2026. Les marchés, deuxième séance dans le rouge pour la Bourse de Paris, moins 0,5% ce soir, 5883 points. Etienne Brack, Orcac, Valneva s'envole de 20%. Son vaccin anti-Covid franchit une nouvelle étape. L'Agence européenne des médicaments a donné son feu vert aujourd'hui.
Oui, ça y est, le vaccin Valneva va pouvoir être injecté dans l'Union européenne suite à la décision d'aujourd'hui. Et c'est une avancée majeure pour la biotech franco-autrichienne, car jusqu'à présent, elle a accumulé des échecs commerciaux. Pour rappel, le Bahreïn est pour l'instant le seul pays où le vaccin a été commercialisé, puisqu'au départ, il y avait un accord avec le Royaume-Uni pour 100 millions de doses. Et finalement, le Royaume-Uni a fait marche arrière. Reste à savoir maintenant si la Commission européenne et les États membres de l'Union européenne vont passer commande. Rien n'est fait pour le moment, surtout que la situation ne plaide pas en faveur de Valneva, avec des stocks dans l'Union européenne de Pfizer qui sont encore importants, et puis surtout la campagne de vaccination qui a été mise entre parenthèses, puisque pour l'instant, la quatrième dose est uniquement à destination de la population les plus fragiles. En tout cas, sur ce plateau, il y a quelques jours, le patron de Valneva était très clair. Si l'Union européenne ne passe pas commande dans les mois à venir, le programme risque de s'arrêter. Donc ça sera à suivre, mais en tout cas, on voit que ce programme et ce vaccin à Valneva n'est pas encore sorti de l'auberge.
Merci Étienne Brack, merci Stéphane Nicolo pour ce point sur l'écho. On se retrouvera tout à l'heure à 22h, notamment pour la clôture à Wall Street. Dans un instant, on va parler de Quid, comment arrêter de fumer, ou comment arrêter toutes les addictions, parce que Quid, c'est pas seulement la cigarette. On va découvrir tout ça. N'oubliez pas, à 21h, on retrouvera aussi nos experts pour le débrief de la semaine. Et puis à 20h50, on reviendra à la levée de fonds pour la fintech Okodo. Allez, c'est tout de suite sur BFM Business.
BFM Business présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Frédéric Simotel.
Voilà, vous cherchez peut-être à arrêter de fumer pour l'été, c'est le bon moment, et pourquoi pas passer par une application qui s'appelle notamment Quit, hein, Kwit, une application anti-tabac, mais qui est en train de tourner doucement vers une plateforme anti-addiction. On va en parler avec son fondateur et président, Geoffrey Kretz. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Donc, start-up strasbourgeoise, ça, vous a été créé en 2017 là-bas. Alors, tiens, avant de rentrer un peu plus dans ce que vous faites, aujourd'hui, on parle beaucoup, c'est vrai, on aime bien tout ça, il y a la health tech, il y a la reg tech, il y a la biotech, et il y a la mental tech. C'est là-dedans qu'on vous range, qu'on vous classe avec Quit.
Oui, alors la catégorie principale est certainement health tech, et la sous-catégorie mental tech. D'ailleurs, on a cofondé un collectif qui s'appelle Mental Tech France, avec différents acteurs de la santé mentale, et on essaye de faire bouger les lignes, et c'est vrai que c'est intéressant parce que ça devient un vrai sujet et on a notre place, notre rôle à jouer.
Oui, puis il y a un vrai créneau aujourd'hui, hein, là à travers le type d'application dont on va parler dans un instant, mais voilà, on voit beaucoup de choses qui se font parce qu'il y a le bien-être au travail, le bien-être dans la vie tout court.
Il faut se rappeler qu'on sort d'une période assez difficile, hein. Oui. Vous allez prendre les confinements et vous allez prendre ensuite la situation un peu difficile. Voilà, que je rappellerai pas, et donc les gens sont un peu en détresse, et que ce soit les jeunes et les moins jeunes, il faut les aider, et on n'a pas assez de spécialistes et de professionnels de santé, et nous, avec la tech, on est en capacité justement d'intégrer des solutions humaines et de complémenter des interventions pour toucher le plus grand nombre.
Alors racontez-nous justement comment ça marche Quitt concrètement, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de fumeurs ou de prochains anciens fumeurs qui nous écoutent et qui se disent tiens, parce que c'est prouvé, hein, l'application fonctionne.
On travaille avec des chercheurs et des psychologues. Et d'ailleurs, la petite anecdote, c'est que le premier salarié qu'on a recruté était une psychologue en thérapie comportementale et cognitive. Et donc, cette science-là qu'on utilise, donc les psychologies cognitives et comportementales, sont ce qui fait un peu l'essence de l'application. Mm-hmm. Donc, on mélange ça avec de la gamification. Donc, on rend l'expérience ludique. Parce qu'on répète tellement aux gens qu'arrêter de fumer, ça va être difficile qu'ils le croient. Et nous, on est en train de lutter contre cette croyance et d'expliquer aux gens que c'est facile.
Et alors, quand vous dites ludique, c'est-à-dire on se met des challenges, on dit grâce à aujourd'hui, vous avez réussi, vous avez économisé tant de choses. Enfin, voilà, c'est ce côté-là qui
fonctionne. Exactement. Et au-delà de ça, il y a aussi tout est un peu gamifié comme dans un jeu. Donc, toutes les étapes que vous allez parcourir, le bien-être que vous allez ressentir va être transformé dans l'application avec des points. Et ces points vont vous faire gagner des niveaux. Mmh. Comme si vous jouiez à un jeu vidéo en fait.
Et est-ce qu'il y a un côté aussi communautaire? Voilà, on peut se comparer avec d'autres, j'imagine, pour justement relever des challenges avec ses amis, sa famille.
On peut se fixer des objectifs, des buts. Et là, tout récemment, la semaine dernière, on a lancé une nouvelle fonctionnalité communautaire où les gens sont réunis en groupe de soutien et ils s'entraînent entre eux.
Mmh. Et ça fonctionne. Vous avez déjà quelques indicateurs qui disent voilà, au bout de tant de mois de suivi par Quitt, j'ai arrêté.
Alors pour arrêter, il faut un peu moins de 9 jours avec l'application. On va vous aider. Et ensuite, on a, si vous êtes engagé dans la solution, vous avez un peu plus de 8 chances sur 10 de rester non-fumeur. Mm-hmm. Ce qui est plutôt énorme, parce qu'il faut savoir que si vous arrêtez sans aide, vous avez 3%. Donc nous, on fait passer ça de 3 à 5% de chance à plus de 8 sur 10.
Et alors, ce que je disais en introduction, Geoffrey Crête, c'est que vous êtes en train de renforcer cette application qui partait d'une application anti-tabac à une application anti-addiction, parce que vous dites tiens, ce qui peut marcher pour le tabac, ça peut marcher contre l'alcool, pourquoi pas le sucre aussi. On sait qu'aujourd'hui il y a des batailles contre le glucose, tout le monde en parle, mais voilà, ça peut dériver, c'est pas le terme, mais voilà, vous pouvez décliner tout ce que vous avez appris avec la bataille contre le tabac sur d'autres
exactement
sciences.
Donc en fait, il faut savoir que les sciences qu'on utilise sont déclinables pour des troubles de l'usage et du comportement. Mmh. Donc effectivement, les autres addictions. Et on travaille aujourd'hui sur l'alcool. Donc il y a une application qui sortira d'ici la fin d'année. Et alors, contrairement à la cigarette, où le but est vraiment de vous faire arrêter, puisqu'il n'y a pas de petite consommation de cigarette, autant l'alcool, on est bien conscient que déjà avoir une consommation modérée, c'est déjà quelque chose de bien. Oui. Puisque si on reprend la période de confinement et de Covid, on a en France plus de 5 millions de Français qui ont commencé à boire un peu trop. Et nous, on veut juste aider ces gens qui boivent un peu trop à reprendre consommation raisonnée. Mmh.
Donc, alors, vous travaillez avec des psychologues, vous l'avez dit, des développeurs aussi, puisqu'il faut bien, ça reste aussi de la tech, et il y a une base tech. Comment vous gagnez de l'argent aujourd'hui? Où en êtes-vous vous aviez levé des fonds il y a 2021, il me semble,
En décembre 2020.
2020. Et donc, aujourd'hui, voilà, vous en êtes où du business model? Comment ça marche? Et puis, est-ce que ça marche à la réussite? Est-ce que, expliquez-nous.
Non, mais c'est une bonne idée. Donc aujourd'hui, on est majoritairement B2C. Donc on a réussi l'exploit de créer un leader mondial en B2C dans une addiction en partant de Strasbourg, ce qui n'était pas gagné. Mm-hmm. Et donc l'application est gratuite à télécharger et une partie de l'application est payante. Donc pour certaines fonctionnalités, vous allez payer, en France, c'est 10 euros par mois. Donc c'est moins cher qu'un paquet de cigarettes. Oui. Un fumeur qui utilise Quitt, il a rentabilisé l'application en un jour.
Et puis en général, ils ont testé tellement de solutions qui leur ont coûté pas mal d'argent.
On n'en parle pas.
Et est-ce que parmi les développements, alors bien sûr avoir encore plus d'utilisateurs, s'internationaliser, mais il pourrait y avoir le côté B2B2C, parce qu'on sait qu'il y a évidemment des instituts qui existent dans ce domaine contre les addictions, et donc ils ont leur méthode et ça pourrait venir accompagner ces méthodes. Est-ce que ça c'est un axe de développement que vous regardez aujourd'hui?
C'en est un, puisqu'on discute avec pas mal de labos qui bossent en tout cas dans le domaine du sevrage tabagique et des addictions. Et au-delà de ça, il y a surtout les complémentaires santé qui sont très intéressés, puisque un fumeur coûte cher. Et malheureusement, le tabagisme est la première cause de mortalité, de cancer. Voilà, si vous faites arrêter un assuré de fumer, vous faites beaucoup d'économies. Et donc, on intéresse beaucoup les mutuelles santé, les complémentaires santé qui viennent nous parler.
Donc voilà, donc les développements sont assurés. Merci d'être venu parler de tout ça. Geoffrey Kretz, fondateur et président de Quit. Donc allez-y, KWIT, si vous voulez tester un peu ces applications anti-sevrage. Fumeur ou pas, Luc Carbonnier ?
Pas fumeur,
pas bon encore. Déjà, voilà. Alors, pas utilisateur de Quit, pas encore. Luc Carbonnier, donc bonsoir. Président, cofondateur d'Ocodo. Alors, c'est une fintech leader du paiement différé à destination des professionnels, faut bien le rappeler. Vous venez de lever 37 millions d'euros. Alors, dites-nous un petit peu, déjà, paiement différé, pourquoi être allé dès le départ vous avez. Alors, c'est franco-britannique créé en 2018, vous êtes arrivé en France en 2019. Et pourquoi être allé dès le départ vers le côté paiement différé vers les professionnels?
Oui, il faut savoir qu'historiquement, plus de 50% des transactions B2B se font à crédit, donc avec des délais de paiement. Et ce crédit commercial, ça représente la première source de financement en fait, pour les entreprises. C'est environ 700 milliards d'euros en France. Et là où il y a un gros problème, c'est qu'aujourd'hui, les méthodes de paiement actuelles ne permettent pas d'offrir des délais de paiement dans le cadre d'une vente en ligne.
Oui.
On est
dans le côté traditionnel. Quand on a calqué, on n'a pas forcément complètement réussi à calquer ce qui peut se passer dans le monde physique, dans ce monde en ligne. Alors justement, qu'est-ce que vous apportez? Parce qu'il y a de la réglementation derrière tout ça. Bon, il y a des usages. Comment ça se passe avec Ocodo?
En fait, Ocodo révolutionne le paiement B2B en ligne en permettant aux commerçants d'offrir instantanément à leurs clients une facilité de paiement à l'achat qui, comme vous le disiez, en fait, réplique ce que ferait une facture dans le commerce traditionnel où, du coup, l'acheteur peut payer à 30 jours ou à 60 jours et donc optimiser sa trésorerie.
Et ça, les sites marchands, ce qu'on appelle le buy now, pay later, voilà, ils n'aiment pas trop ça, les sites marchands en général.
C'est
vous qui prenez le risque? Comment ça se passe?
Oui, effectivement, c'est un paiement différé et garanti pour lequel nous-mêmes nous réassurons auprès de Score, qui est le leader français de la réassurance, quatrième réassureur mondial. Et de ce fait, on garantit au commerçant qu'il sera payé quoi qu'il arrive, puisqu'on prend le risque de non-paiement.
Alors aujourd'hui, ça marche plutôt bien pour vous. D'ailleurs, la preuve, vous réussissez à convaincre des investisseurs dans une période, on le sait, qui est assez compliquée. Vous avez aujourd'hui, c'est quoi? C'est 30, 40 000 PME que vous suivez?
Oui. Absolument. Grâce à notre
30, 40 000, comme si les 10 000, c'est quand même important, mais on est quand même en quelques dizaines de milliers de clients qui vous suivent déjà avec cette solution de paiement différé.
On a près de 40 000 PME européennes qui ont pu bénéficier d'une meilleure méthode de paiement en B2B. Et si vous pensez à l'impact, par exemple, imaginez un restaurateur qui a une cinquantaine de couverts, qui doit acheter du poisson, de la viande. Historiquement, on lui disait, tu me payeras à la fin du mois ou à 30 jours. Alors que s'il va sur une plateforme en ligne, on lui demande de payer à l'avance par carte.
Oui.
Et donc, grâce à notre solution, il peut à nouveau payer à 30 jours.
Ça veut dire que vous prenez les risques, mais vous avez les outils d'analyse pour détecter si la personne est éligible, enfin si l'entreprise est éligible au crédit, s'il y a un risque de fraude aussi. Enfin, c'est tout ça qui est votre algorithme va aller chercher toutes ces datas, c'est ça?
Exactement. Sous le capot de la méthode de paiement sans couture et facile à utiliser, il y a de l'analyse des risques, de la détection de fraude, de la prise de décision en direct, de la gestion des limites, du recouvrement, de l'assurance crédit. Et donc finalement, c'est toute cette chaîne de valeur du poste client que le marchand peut nous outsourcer et donc croître et développer ses ventes en toute.
Vous attribuez un score, enfin chacun, sur chacun de ces critères, vous attribuez un score, et puis voilà, si on a la moyenne que vous avez indiquée, eh bien voilà, si on dépasse ce seuil, eh bien sûr, on est éligible et donc on peut chancer. C'est ça l'idée?
C'est exactement ça. Du point de vue du commerçant, c'est très très simple. On est comme une méthode de paiement. On prend un pourcentage sur chaque transaction à chaque fois qu'ils nous utilisent.
Alors, 2021, vous levez 10 millions d'euros auprès d'investisseurs privés, donc vous commencez à partir à l'international, vous étiez une soixantaine de personnes. Aujourd'hui, avec ces 37 millions, donc c'est continuer à progresser, ou alors est-ce qu'il y a aussi, donc continuer à progresser à l'international, à recruter, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres axes de développement que vous voyez? Parce que quand on est en solution de paiement, vous commencez à regarder d'autres axes de croissance.
Oui, fondamentalement, le marché du B2B est global et la plupart des entreprises exportent dans les pays limitrophes. Donc, comme vous l'avez dit, il y a un vrai enjeu d'internationalisation pour nous, mais il y a aussi une profondeur produit. Aujourd'hui, on a une solution qui est très axée commerce en ligne, mais qu'on veut omnicanal. On a de la demande de la part de nos marchands pour avoir une solution qui s'applique aussi en magasin, dans les ventes à distance. Et donc tout ça, c'est des axes de développement supplémentaires.
Est-ce que ça veut dire aussi que les secteurs, tout à l'heure je parlais de sites marchands grand public, mais vous pouvez élargir aussi les secteurs vers lesquels vous allez, enfin vous pouvez œuvrer parmi ces 30-40 000 PME?
Tout à fait, il y a des sites marchands grand public comme des Paris Fashion Shop en France, donc du textile, dans la construction. On couvre beaucoup de marchands aussi dans le monde de l'agroalimentaire. On vient de se lancer avec Catou en Espagne. Mm-hmm. Donc, en principe, ça peut s'étendre à toutes les verticales du B2B. On est en train de faire des développements pour pouvoir couvrir, par exemple, des clients dans l'automobile ou encore dans le software as a service, donc dans l'édition logicielle.
Le côté start-up franco-britannique, c'était qu'est-ce qui a été le début de l'histoire, le début de l'aventure?
Alors, c'est un reflet de l'équipe fondatrice où on est un Anglais, un Belge, un Français.
D'accord.
Ça commence un peu comme une blague. Et le fait qu'à Londres, il y ait quand même un marché
historique. Sur les fintech qui se développe plus vite. Et du coup, ça veut dire que les équipes de développement, enfin, là, les gens que vous voulez recruter, c'est à la fois à Londres, c'est à la fois en France?
C'est partout en Europe, mais avec un gros focus sur le continent et donc la France. Aujourd'hui, en France, dans le bureau, on est 25. Mm-hmm. On souhaite passer à 75 rien que sur la France dans les 12 prochains mois et donc doubler de taille sur l'ensemble d'Ocodo pendant l'année qui vient.
Doubler de taille, ça veut dire aussi, parce qu'on sait que c'est un univers, la fintech, où voilà, on peut trouver des opportunités de rachat. Vous pourriez aussi grossir par acquisition, même si vous êtes une jeune start-up.
Effectivement, c'est quelque chose qu'on va regarder activement dans les prochains mois pour faire éventuellement des achats ciblés, soit dans certains pays, soit sur certaines briques produits comme le recouvrement ou le paiement.
Et en termes de réglementation aujourd'hui autour du paiement différé, il y a une réglementation européenne globale, ou alors c'est ça qui est un peu compliqué, il faut aller pays par pays, un peu regarder, faire ces petites divisions, ces factorisations et tout ça?
Alors, c'est pas encore complètement harmonisé. Le paiement est plutôt bien unifié avec PSD2, donc la directive de paiement.
Oui.
Et par contre, le financement est relativement ad hoc et laissé à l'appréciation de chaque régulateur local, ce qui donne lieu effectivement à des, on va dire, à des structurations plutôt compliquées qui sont en fait beaucoup de barrières à l'entrée pour les startups.
Tiens, Geoffrey Kretz, sur cette partie réglementation dans votre domaine, il y a des, parce que vous êtes lié au monde de la santé, là aussi des réglementations précises. Vous devez répondre à certaines règles.
Oui, tout à fait. Ben, surtout le traitement des données.
Ouais.
On traite quand même des données de santé en partie, donc ça va être RGPD et puis hébergeur de données de santé HDS, quoi. Donc il faut bien respecter certaines normes pour. On va dire pas faire n'importe quoi avec les données de santé des utilisateurs.
Et bien merci à tous les deux. Donc Geoffrey Kretz, fondateur président de Quit pour Arrêter de fumer, et puis Louis Carbonnier, donc président cofondateur d'Ocodo. Et on suivra. Et vous venez de lever 37 millions d'euros donc autour du paiement différé à destination des professionnels. Hein, voilà, ces PME qui sont un peu multisecteurs. On a parlé des restaurateurs, mais je crois que là aujourd'hui vous êtes en train d'ouvrir vraiment vers tous les domaines d'activité et vous recrutez. J'imagine aussi vous recrutez.
Voilà. Pas autant de personnes.
Mais tout le monde est toujours en train de chercher, donc profitez-en, l'appel est lancé.
Merci
d'avoir été avec nous. Allez, on va se retrouver dans un instant, le débrief de la semaine avec nos experts, ils seront là dans un instant. Il y a beaucoup de choses cette semaine. On a les acteurs du métaverse qui se sont réunis, on a Microsoft qui arrête justement de reconnaître les émotions avec ses outils d'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de recul, de petits pas en arrière en ce moment dans l'intelligence artificielle. Apple qui monte un syndicat, il y a un syndicat qui se monte dans une boutique Apple, et ça c'est un petit signal, mais un signal faible, mais quand même une grosse annonce quand même dans cet univers. Voilà, c'est tout de suite sur BFM Business. On est encore ensemble dans Tech & Co jusqu'à 22h.
Tech & Co, le débrief de la tech.
Le débrief de la tech avec nos experts. Alors un plateau plutôt masculin, je le dis tout de suite. Allez-y sur Twitter, lâchez-vous. Mais c'est comme ça. Il y a des fois, on n'arrive pas à avoir nos consultantes féminines, mais elles sont là quand même assez régulièrement. Et puis, je peux vous rassurer que derrière le mur, il y a plein de femmes en régie. Alors, avec nous, pour en parler, Lucas Perraudin, bonsoir. Bonsoir. Lucas, fondateur de Mula Digital, donc on est dans le consulting digital et tout ce qui est transformation numérique. Jérôme Marin, bonsoir.
Bonsoir.
Jérôme, fondateur de cafetech.fr, donc newsletter dédié évidemment, vous l'avez compris, à la tech. Et Pascal Samama, bonsoir Pascal.
Bonsoir Frédéric.
Journaliste BFM Business. Messieurs, tiens, bah, si on commençait par cette annonce hier qui... voilà, on se dit, ah oui, tiens, pourquoi pas, pourquoi personne n'y avait pensé avant? Bon, c'est vrai que Metaverse, c'est assez... Enfin, l'expression est assez récente, puisque c'est Mark Zuckerberg qui avait le premier un peu lancé le sujet. En tout cas, les acteurs du Metaverse créent une alliance pour définir ce qu'est le Metaverse. Qu'est-ce qu'il faut en penser de cette alliance? Oui, il faut y aller pour créer une sorte, alors, peut-être pas une norme, mais qu'on puisse interopérer, collaborer, Lucas.
Il va falloir y aller, puisqu'on en a tellement parlé que maintenant, il va falloir répondre aux attentes. Il va falloir définir le métaverse. Mm-hmm. Alors, les travaux, c'est de la sémantique. Hein. Donc, quels sont les termes à utiliser? Que signifient ces termes? Que veut dire le terme métaverse? Ouais. C'est très intéressant, parce que là, on va commencer chacun un espèce de fantasme, une idée un peu...
Le Web 3, voilà, c'est ça.
Par exemple, le Web 3, dans l'Alliance, il est très peu présent. Ouais. C'est quand même un standard qui, ou un groupe de standards qui ressemble beaucoup au Web qu'on connaît aujourd'hui. Mm-hmm. Bon, il y a Unity, Microsoft, Meta, évidemment. Donc, oui, ça va être intéressant,
mais ils vont encore abandonner. Il n'y a pas Google, il n'y a pas Apple.
Il n'y a pas Apple, il n'y a pas Google, il n'y a pas Nuantic, il n'y a pas donc les acteurs du Web 3 aujourd'hui. Je crois qu'il y a une de mémoire une start-up.
Et pourquoi ils n'y sont pas là? Je vais poser la question. Je sais pas, Jérôme. Comment tu analyses?
Déjà, Apple et officiellement ils sont pas encore, ils ont pas encore présenté leurs choses. Apple généralement arrive un peu après. Ils présentent leurs choses déjà prêtes. Ils aiment bien leur écosystème aussi un peu fermé. Donc je pense que pour eux ça fait sens de pas aller là dans un truc qui est ouvert où on est encore sur de la définition, sur quelque chose qui est pas très très concret encore. Donc ils viendront plus tard. Google c'est un peu la même chose. Google officiellement ils travaillent pas. Enfin ils ont dit qu'ils travaillaient, mais ils ont jamais rien présenté vraiment.
Oui, d'ailleurs quand, à la Google I/O, la Sundar Pichai, il a pas prononcé le mot métaverse. Il a dit nous on vit dans le monde réel, mais qu'on augmente. Mais je pense que grâce à nos lunettes.
Tim Cook aussi le prononce pas en fait. Ouais. Tim Cook d'Apple le prononce pas parce qu'aujourd'hui Metaverse, ça c'est un peu connoté Facebook en fait. Et donc Tim Cook le prononce pas, Sundar Pichai le prononce pas. Voilà. Et c'est pour ça, je pense qu'ils sont pas dans cette alliance. Je pense que c'est pas qu'ils s'intéressent pas au sujet, c'est que pour l'instant c'est peut-être un peu trop tôt pour eux dans leur développement.
Mais est-ce que ça veut dire, Lucas, tu dis à l'instant, c'est de la sémantique, mais est-ce que derrière ça va être aussi de la techno? C'est-à-dire j'achète des choses dans un métaverse de Facebook, je vais pouvoir l'utiliser dans le métaverse d'un autre partenaire.
Donc ils travaillent sur des hackathons, donc du développement. Pour trouver des standards techniques d'interopérabilité.
Mmh, d'accord.
Mais dès qu'on dit interopérabilité, on exclut Apple, parce qu'Apple, c'est un écosystème clos. Google, après, et encore une fois,
interopérabilité. Ils sont quand même deux acteurs un peu présents au niveau des systèmes d'exploitation, etc.
Ce sont de très gros acteurs. Et puis, le Web3 émergent, l'interopérabilité entre des plateformes centralisées et le Web3, on se pose encore la question de... Enfin, la décentralisation, la centralisation, il faut choisir. Donc...
Rêve ou réalité, Pascal?
Eh ben, c'est bien tout le problème, parce que le métaverse, déjà, on n'arrive pas à savoir comment on va le prononcer. C'est métavers ou métaverse. On n'arrive pas à savoir.
Il faut qu'on. On prononce pas le.
Non, si, on n'arrive pas. Il y a débat sur métaverse. Là, il faut définir ce que c'est, ce qui est quand même assez étrange pour une technologie qui est en train de se lancer.
Est-ce que c'était pas le
troisième chose? Troisième chose. Le métaverse, c'est quand même lié totalement à Facebook. Facebook est totalement lié dans ses réseaux sociaux, Facebook, Meta, à Android, Google et à Apple de l'autre côté. Et là, il y a une espèce de revanche que veut prendre, c'est l'impression que j'ai, que veut prendre Zuckerberg vis-à-vis de ceux qui le dominent depuis le début, dans le métaverse. Et c'est pour ça, d'après moi, que Google et Apple ne vont pas se soumettre à Facebook en entrant dans une espèce de coalition. Mmh. Et puis après, là où je suis très sceptique sur le métaverse, même s'il y a des milliards
sur
et des milliards...
Sur l'alliance ou sur le métaverse, d'une façon générale?
Sur le métaverse, j'ai l'impression que c'est un fantasme de Zuckerberg. Pourquoi je suis totalement sceptique, même s'il y a des dizaines de milliards engagés dans ce système? C'est que toutes les technologies numériques ont démarré par un outil. Internet avec le personal computer, avec l'ordinateur, la mobilité avec le smartphone, avec l'iPhone, puis tous les smartphones. Et là, le métaverse, Eh ben, on ne sait pas encore quel outil. Facebook a acheté Oculus en 2014 pour 2 milliards d'euros. Tout le monde se disait, mais c'est totalement délirant. Et là, on en est encore à savoir quel est l'outil, quel est le casque de réalité virtuelle. Les casques ont fait des flops depuis le début. Il n'y a pas réellement d'outils, il n'y a pas réellement de technologie, il n'y a pas de gain d'utilisateur. Je vois pas tellement comment un utilisateur va tirer profit à acheter un terrain, une maison virtuelle, mais des vêtements virtuels, même si les marques ont envie que ça se passe comme ça.
Mais est-ce que si on bascule pas en 94, 96, début d'Internet, Lucas, est-ce qu'on se retrouvait pas un peu dans ce cas-là quand Internet est sorti? On se dit, mais qu'est-ce que je vais aller acheter des trucs derrière?
Il y avait une promesse dans Internet.
Alors, il y a une promesse dans le métavers, en français, métaverse en anglais. Alors, moi, j'ai connu beaucoup l'anglicisme, donc je vais déraper, c'est sûr. On est, par rapport à 94-96, on est en avance de phase. C'est-à-dire qu'on anticipe plus de... Il existait plus de choses en 94-96 pour l'Internet qu'il n'en existe aujourd'hui pour le métavers. Et d'abord, encore une fois, cette histoire de standard, ça va permettre d'avoir une définition derrière le terme. Et à partir du moment où on va poser cette définition de ce corps de standard, je pense qu'on va avoir des dissidences, déjà.
Bien sûr, t'as entièrement raison.
Donc on sera pas aligné dessus. Et donc l'outil cible existe. C'est la lunette de réalité augmentée, autonome, toute la journée, etc. La grande différence avec le PC à l'époque de l'Internet, c'est qu'elle est désirée, mais elle n'est pas existante. Ouais. Et on sait en plus qu'il y a beaucoup de défis technologiques à résoudre pour qu'elle puisse exister. Donc, on est vraiment en avance de phase. Et le risque, c'est aussi qu'on ait fait trop de promesses, qu'on ait fait trop de buzz.
L'effet déceptif, ouais.
Parce que ça a fait que des flops commerciaux, hein, les casques de réalité virtuelle depuis le début.
Ouais, ça marche pas mal maintenant. Ça commence à marcher.
Quest 2, c'est un beau succès.
Dans
le monde industriel, ça marche plutôt pas
oui.
mal en plus.
Oui, je parle pas de B2B. Hein.
Jérôme.
Non, moi je pense que je suis assez d'accord avec Pascal. C'est vrai que pour l'instant, c'est beaucoup de promesses. C'est un buzzword en fait, et c'est vrai que Zuckerberg l'a mis en avant parce qu'ils ont d'autres problèmes à côté chez
Facebook. Il a essayé de rebrander.
Facebook, Zuckerberg en 2014, il disait la réalité virtuelle c'est la prochaine plateforme sociale. 8 ans après, on attend toujours en fait. Mm-hmm. Donc il y a la promesse, moi je sais pas, on verra, je suis pas devin, je veux pas vous dire si ça va marcher ou pas. C'est vrai que pour l'instant, ça manque de choses concrètes. On attend de voir. Il y a des défis technologiques sur les casques de réalité augmentée. Pour l'instant, ça n'existe pas, ou en tout cas, c'est pas grand public. C'est pas technologiquement, c'est pas encore au point. Facebook dépense beaucoup d'argent pour arriver à ces casques grand public. À voir s'ils vont y arriver. Quoi. Et après, une fois qu'ils ont ça, il faudra démocratiser les usages aussi.
Et puis, défi technologique, défi aussi de carbonation, décarbonation, parce que c'est le cas.
Ça serait plutôt dans le sens de la transition écologique parce que ça évite d'avoir des commutes, enfin des allers-retours au travail parce qu'on peut faire des choses en
réalité. Oui, il peut y avoir les appareils faits rebonds, ça peut permettre.
Ça donne accès à l'emploi des gens qui sont plus reculés, etc. Donc, dans la théorie, si le système fonctionne, ça rend beaucoup de choses plus accessibles à beaucoup de monde et ça réduit l'empreinte carbone de beaucoup de gens. Par contre, juste pour revenir, je pense qu'on peut modérer un peu. C'est-à-dire que l'ambition de changer le monde chez Mark Zuckerberg, elle est là. Après, toutes les grandes technologies, il a fallu rêver et être un peu. Ouais. On peut dire soit c'est un rêve, soit c'est de la mégalomanie, on peut le qualifier comme on veut. Elle est là. Les moyens sont derrière. Il y a eu énormément de progrès, moi, quand j'ai commencé. Bon, j'ai travaillé 4 ans sur le sujet chez Meta. On avait besoin d'un PC de gaming, un casque, mettre des capteurs chez soi. Bon, quand je suis parti, on avait tout dans un casque autonome. Donc, il y a eu d'énormes progrès. Les unités ont progressé. Les expériences ont progressé. Ça va continuer. Le problème, c'est si on dit que ça doit changer la façon dont on interagit avec les machines et remplacer les téléphones portables, etc., alors là, la route est extrêmement longue. Et la problématique, c'est pas qu'il n'y ait pas de progrès, c'est qu'il y a un progrès, mais la vitesse de ce progrès, elle est adossée à des découvertes scientifiques fondamentales sur les matériaux, les batteries. Il y a tout un tas de technologies majeures, 4 ou 5 technologies majeures, les antennes, les batteries, les processeurs, le stockage, les réseaux.
Les processeurs,
ouais, les processeurs, les matériaux de rendu de l'AR, ce ne sont pas ceux de la VR. Donc, c'est des technologies qui sont hyper matures et elles doivent toutes faire une avancée significative. C'est pour ça qu'on pense que ça va prendre très longtemps.
Ouais. Mais du coup, est-ce que, ce que disait Frédéric tout à l'heure, est-ce qu'on n'est pas trop tôt en fait? Parce qu'il y a tellement de promesses, on attend tellement de start-up qui se lancent, qui lèvent de l'argent, tellement d'entreprises qui mettent du métaverse un peu à toutes les sauces.
Moi, je crains la bulle.
Si ça prend 5 ans, 10 ans, qu'est-ce qu'elles vont devenir ces start-up s'il faut attendre 5 ans ou 10 ans?
Il faut attendre 5 ans. Pour que ce soit un cas d'usage dans les milliards d'utilisateurs par jour, téléphone mobile, c'est 10 ans. Enfin, je pense, j'en sais rien. C'est au moins 5. Marc dira au moins 5 et on va dire entre 5 et 10.
Mais d'ailleurs, Meta, il partage ses prototypes, hein, je crois, de réalité virtuelle. Enfin, il essaie un petit peu de.
Bah, il les a présentés ouais. La semaine dernière, enfin cette semaine, là.
Ouais, cette semaine,
une vidéo pour montrer. Mais c'est ce qu'on voit à l'écran, là, justement.
Et lui, le but, c'est ça, c'est de partager, enfin, essayer de d'évangéliser un peu par le produit.
Il veut faire ce qu'ont fait Google et Apple dans leur domaine, chacun différemment. C'est devenir le pilier, de créer un écosystème autour d'un outil et autour d'une technologie. Après, c'est pas gagné. Quand tu dis il va falloir du temps pour que la technologie soit mûre, je crois que tu as raison, évidemment. Il faut se rappeler l'iPhone 1, quand il est sorti, son prix était totalement excessif. Il y avait on voyait ce que ça pouvait donner, mais c'était très, très cheap. Il n'y avait pas encore le magasin d'applications qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y avait pas les outils, il n'y avait pas la puissance. Ouais, il n'y avait pas de 3G. Il a fallu du temps. Donc peut-être que c'est une histoire de temps. Après, il va falloir satisfaire, je crois, le consommateur. Et le consommateur, moi, je veux bien qu'on m'explique, qu'on me démontre ce qu'il a à gagner à aller dans le métaverse, dépenser de l'argent pour des produits virtuels.
Ouais, peut-être pour la partie jeux vidéo. Mais je vous propose...
Alors, la partie jeux vidéo. Ou réseau social.
Ouais, ou réseau
social. Des clubs privés sur des réseaux, de réseaux sociaux, pourquoi pas.
Alors, je vous propose de marquer... On va marquer une pause.
C'est bon.
Et puis non, mais il y a beaucoup de choses. Hier soir, j'avais le ancien patron des Girondins de Bordeaux. Il a lancé un capteur pour les footballeurs amateurs. Voilà, un petit capteur. Ils le mettent derrière leurs chaussettes et puis ils courent, ils dribblent. Et puis ils ont comme ça tout un tas de data. Et bien lui, il imagine déjà le côté ludique, le côté projeter ça dans le métaverse, avoir son avatar qui va avoir un peu les mêmes caractéristiques de vitesse, de dribble et tout ça.
On peut imaginer regarder un match de foot au milieu du terrain, par exemple. Ouais.
Voir participer. Ouais,
ça existe déjà. Il y a The News. Enfin, ça a changé de nom maintenant. Ouais. Ça existe déjà. C'est déjà possible. Être un match de basket NBA au premier rang.
Dans les stands, dans les gradins, pardon.
Ouais.
Là, je dis moi sur le. Imaginons qu'on peut se balader sur le terrain pendant que ça joue.
Ouais,
on peut avoir sa propre caméra.
Bon. Eh ben, en tout cas, il y a encore beaucoup de choses à dire. Allez.
En tout cas, le seul truc, c'est que ça fait parler.
C'est clair.
C'est de la tech.
Mais voilà, tout est résumé comme ça. Merci tous les trois. Allez, on reste ensemble, on marque une courte pause, on se retrouve juste après. On a encore beaucoup de sujets entre Microsoft et les outils d'intelligence artificielle, enfin la reconnaissance faciale autour de tout ça. Et là, il y a beaucoup de choses qui se font en ce moment, on va en reparler. Tiens, Apple il y a eu un syndicat dans une boutique Apple, qu'est-ce que ça peut signifier? On va parler de tout ça avec nos experts, c'est tout de suite sur BFM Business.
Tech & Co. Le débrief de la tech.
Allez, avec nos invités, Lucas Perraudin, fondateur de Mula Digital, dans le consulting digital. C'est quoi les projets sur lesquels tu travailles en ce moment, Lucas?
Justement, alors nous, on emmène les entreprises plutôt matures, plutôt grandes, vers le commerce dans le métaverse.
Ouais.
Et avant d'aller dans le métaverse, parce que beaucoup veulent savoir ce qui va se passer, on leur explique que les gens vont acheter dans les réseaux sociaux de plus en plus, et ça va prendre une grande partie du commerce, dans les applications de messagerie, et éventuellement dans le métaverse après, et qu'il y a un grand nombre de transformations à faire pour qu'elles puissent être présentes dans ces canaux là où leurs clients vont aller, de manière financièrement viable et aussi de manière pertinente pour les clients, d'avoir la bonne façon d'être présent dans ces...
Et achat virtuel et achat réel, enfin achat de
achat virtuel et réel,
oui.
Il y a une grande partie des achats qu'on fait aujourd'hui en magasin ou en e-commerce qui vont migrer vers les réseaux sociaux. Et il y a une raison pour ça qui est fondamentale, c'est que Apple a décidé d'enlever beaucoup des signaux qui permettent de faire de la personnalisation des publicités. Et donc, les réseaux sociaux ne voient plus les transactions qui se font sur les sites de e-commerce. Et donc, valoriser leur publicité, c'est plus difficile parce qu'en gros, une publicité qui valait 2 dollars, maintenant, elle vaut 1 dollar parce qu'elle convertit moins bien, on ne voit plus les signaux. Si je vois la publicité et j'achète sur Facebook, alors Facebook voit l'intégralité du parcours client
et une
bien plus grande précision sur la valeur. Donc c'est vital pour eux et ça va changer nos comportements d'achat.
Ouais.
On passe 3 heures par jour sur les réseaux sociaux. S'ils nous mettent un magasin et que l'expérience est bonne, on va commencer à acheter sur les réseaux
sociaux. Oui, c'est ça, c'est la même chose. Hein. Quand on a une pub bien ciblée, pourquoi pas, hein, on s'en contente aussi. Alors, tiens, parmi les news de la semaine sur lesquelles on va faire un débrief avec Jérôme Marant aussi, j'ai oublié de rappeler, fondateur de CaféTech.fr et Pascal Samat de BFM Business, Microsoft qui stoppe ses outils d'intelligence artificielle, de reconnaissance faciale, qui étaient capables de reconnaître les émotions. on sent, c'est une news de plus, je ne vais pas toutes les référencer, mais c'est une news de plus, encore un pas en renouveau en arrière par rapport à la reconnaissance faciale.
Ouais, tout à fait, on a vu IBM, Amazon, un peu tout le monde prend un peu de recul, soit parce qu'il y a l'actualité parfois qui joue un impact, soit parce qu'il y a aussi une prise de conscience que l'intelligence artificielle, il y a des capacités assez énormes, donc il faut quand même prendre un peu de recul, mettre un peu des standards pour éviter les abus. Donc,
on le rappelle, la techno, elle analyse notre visage et elle est capable de détecter des émotions et puis de s'en servir derrière pour...
L'une des applications, par exemple, je ne sais pas si c'était Microsoft, mais c'est de dire, vous regardez la télé, on peut savoir si vous êtes heureux ou triste, on va vous mettre de la pub qui correspond à votre émotion, par exemple. Mm-hmm. Donc ça, c'est des technologies qui sont en train d'être développées, ou en tout cas où on pense à les développer. Ça pose des questions, bien entendu, d'éthique, des questions... Après, la reconnaissance faciale pose beaucoup de questions sur beaucoup de sujets. Et donc, c'est pour ça qu'on voit ces gros groupes un peu prendre du recul, parce qu'il y a, je pense aussi, un peu un côté... Il y a un côté responsabilité, puis il y a un côté un peu presse, relations publiques, en fait, pour essayer de se démarquer un peu, pour éviter d'être associé à quelques abus qui peuvent avoir.
Pascal.
Et dans ce genre de choses, il y a aussi, ça soulève quoi comme problème? Ça soulève le fait que Internet est global, que l'intelligence est globale, mais que les gens sont liés à des cultures, sont liés à des phénomènes sociétaux, et que le sourire ici peut ne pas signifier la même chose que dans un autre pays. Ça va être quand même assez difficile, ils reviennent en arrière parce que ça va être difficile de s'adapter systématiquement à une région du monde, à un pays, à une contrée, sachant que le sourire ici peut vouloir dire quelque chose. La tristesse ne s'exprime pas de la même façon.
Un sourire un peu ironique, un peu.
Exactement, on peut être ironique, c'est un truc ultra compliqué. Et bref, je pense que c'est un peu inutile d'aller dans cette voie-là. Et après, pour toutes les raisons éthiques, évidemment, parce qu'on n'a pas à nous imposer une publicité ou une émission ou un contenu en fonction de l'émotion qu'on a en ce moment. On a peut-être juste envie aussi. Je suis triste, j'ai peut-être envie de me changer les idées. J'ai pas envie qu'on me mette le film qui...
Lucas.
Ouais, alors, sur la reconnaissance des émotions, et c'est vrai, c'est ce qui a fait les titres, il n'y a pas de preuves scientifiques que ce soit fiable, en fait. Ouais. Donc, la fiabilité de cette intelligence artificielle-là, elle est remise en question.
Il l'avait essayé avec Kinect à une époque pour essayer de déceler les émotions, les dépressions, les gens qui montraient des signes. Alors, il y avait à la fois un questionnaire et puis on voyait comment les gens réagissaient.
Ouais, avec un questionnaire et puis les réactions. Mais l'intelligence artificielle dans ce domaine-là, elle n'est pas hyper fiable. Il y a des universitaires qui contestent en fait sa qualité parce qu'effectivement, il y a des problématiques culturelles, de forme de visage, etc. Ouais. Par contre, ce que fait Microsoft, si on zoome un peu en arrière, c'est d'abord arrêter ce produit-là. Ensuite, pour tout ce qui est reconnaissance faciale, donc identification, ils ont mis des processus de supervision humaine, c'est-à-dire qu'il faut maintenant avoir demandé l'accès à Azure Face, et quelqu'un doit valider votre dossier, il faut déposer un dossier, pourquoi vous voulez l'utiliser, donc il faut justifier beaucoup plus la raison d'utilisation. Et apparemment, ils ont également enlevé tout ce qui permettait d'avoir des indices de votre genre, de votre âge, etc. Donc, d'identification en dehors de vraiment vérifier votre identité plutôt que votre identification. Donc ça, c'est quand même un gros changement. Le seul problème, le seul bémol, c'est que la technologie est capable de le faire. Donc, on dit qu'on ne le fait pas, mais on ne peut pas désapprendre quelque chose. Mm-hmm. Ça, c'est compliqué. Ah, oui. Donc l'algorithme sait si vous êtes un homme, une femme, quel âge vous avez, etc.
Oui, ça y est, là, il
s'est reconnu. On communique plus, mais il sait déjà faire. Donc voilà.
Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, la reconnaissance faciale, on la voit qui se développe beaucoup à Roissy maintenant. On peut
s'enregistrer
avec juste son visage. Et donc c'est des cas d'usage un peu pratiques qui vous aident au quotidien.
Oui, ça vous améliore. Il y a quand même en passe.
Voilà, mais ça ouvre la voie. Je pense que ça ouvre la voie à des choses qui sont un peu moins éthique, en fait. On voit beaucoup en Chine. En Chine, la reconnaissance faciale, elle est partout. Elle est utilisée à des fins policières. En France, on a peut-être plus de règles sur ça.
On nous disait l'autre jour, il y a la règle des 3-8. On a 8 secondes pour reconnaître quelqu'un, 8 secondes pour connaître son... 8 minutes pour connaître son parcours et tout ça, et 8 heures pour le retrouver, et s'il a fait quelque chose de répréhensible, l'arrêter. On en parlait hier, on avait un spécialiste du marché chinois qui nous expliquait tout ça.
Donc en tout cas, la reconnaissance faciale, ça arrive, en fait. C'est vrai que ça se développe et souvent avec des utilités qui peuvent être intéressantes au premier abord pour les consommateurs.
Pour les consommateurs ou dans le domaine médical aussi. Enfin, tout à l'heure, je parlais de dépression. Effectivement, je ne suis pas sûr. Enfin, ça marche à partir du moment où il y a des questionnaires, on peut voir un peu les mimiques des gens. Et puis après, il faut faire gaffe aussi au niveau des recruteurs aussi. C'est vrai qu'on a entendu, au moment du Covid, on entendait des gens qui utilisaient ce type de logiciel pour voir un peu la réaction en distanciel de la personne et voir s'il n'y avait pas des petits éléments qui montraient qu'il y avait un côté, une face cachée de la personne.
Bah, il peut y avoir ce genre de choses, hein, pour, en effet, dans le recrutement, pour détecter si une personne ment, ne ment pas, pour détecter, c'est un petit peu les tests de vérité qu'on peut faire. Moi, j'y vois aussi des applications commerciales. C'est vrai qu'on peut faire des tests produits sur des gens, peut-être plus affinés que les tests produits qu'on fait aujourd'hui, parce que quand on goûte quelque chose, le visage prend une mimique qui fait que on n'arrive pas à trahir son monde avec ça. Après, ce genre de choses quand même doit être encadré, doit être régulé. Mais le souci, c'est que plus on avance, et comme tu le disais, moins on peut reculer. L'algorithme a appris faire ça, et on peut plus il peut plus désapprendre.
En tout cas, on sent cette petite musique de la reconnaissance faciale. Nous, les premiers, on était à dire, allez, c'est super, on paye avec son téléphone, un peu tout ça, et voilà, on voit qu'il y a.
Puis ce serait utile pour les avatars dans le métavers. Quelqu'un, croiser quelqu'un. Si tu me souris pas vraiment, je vais peut-être pas m'arrêter.
Ce serait utile pour que votre avatar ait la même expression faciale que dans le casque. Ah, ça reconnaît. Mais il y a une vraie problématique du cadre réglementaire. Le problème, c'est que la technologie va beaucoup plus vite que la réglementation et que on capture des données qui sont extrêmement importantes, qui permettent une identification très précise des individus. On ne sait pas où elles sont stockées. Enfin, quels sont les standards de stockage, de durée. Est-ce que moi, je peux faire effacer mes données de reconnaissance faciale qui sont détenues par... Et puis, par qui sont-elles détenues? Et tout ça, le cadre est beaucoup trop lâche. Mm-hmm. Et ça, c'est relativement inquiétant. On est un peu dans le système, pour faire un parallèle, de la crypto, où on a lancé des monnaies en disant que c'était de la décentralisation. Enfin, il n'y a plus de banque centrale, il n'y a plus rien. La décentralisation, c'est mieux que la centralisation. Et on se retrouve avec 3 trilliards de dollars, enfin en français on dit billiards de dollars, de valeur sur des marchés, alors qu'il n'y a pas eu de réglementation et que c'est une tâche régalienne. Je pense que la gestion de l'identité, c'est une tâche régalienne de l'État. Passeport, c'est une tâche régalienne. Et ça, à mon avis, il va falloir que ça se rattrape très très vite.
Ah oui, les Chinois se posent moins de questions. Juste, il nous reste 2 minutes là pour conclure. Un mot, Jérôme. On a vu Apple aux États-Unis. C'est dans une boutique, dans un Apple Store, il y a des salariés qui ont monté un syndicat. Alors, ils rejoignent une organisation syndicale beaucoup plus globale, mais enfin, toujours est-il qu'il y a un syndicat.
C'est la première fois qu'il y a un syndicat dans un Apple Store. C'est un mouvement qui est global aux États-Unis, chez Starbucks, chez Amazon, récemment aussi. Apple avait beaucoup fait pour pas que le vote soit positif. Ils avaient envoyé leur patron du retail pour essayer de les convaincre de pas voter pour. Ce qu'ils craignent, en fait, c'est qu'il y ait une contagion, en fait. Et déjà, il y a plusieurs boutiques qui vont voter. Et donc, si une vote pour, ça encourage les autres à voter pour.
Ils avaient légèrement augmenté les salaires.
Ils ont beaucoup augmenté les salaires. Je crois qu'aujourd'hui, le salaire minimum dans un Apple Store aux États-Unis, c'est $20, ce qui est beaucoup plus que le salaire minimum, parce que le salaire minimum aux États-Unis est très très faible. En fait, le vrai problème, c'est pas forcément les salaires, c'est plus les conditions de travail. Les salaires sont assez élevés parce que de toute façon, ils sont obligés d'avoir des salaires élevés pour qu'ils attirent du monde, des salariés. C'est plus les conditions de travail, notamment quand il y avait le Covid, les conditions de travail étaient. Il y avait pas mal de polémiques sur ça, sur les horaires, sur les fouilles. Par exemple, c'est vrai qu'Apple, quand vous travaillez, donc maintenant ils ont dû annuler dans certains états, ils vous fouillent en fait en sortant de l'Apple Store pour savoir si vous avez un oui. Il y a plein de choses comme ça, en fait, des petits détails qui accumulés les uns les autres font peut-être des grosses rivières, mais voilà, c'est plus sur les ça que sur les salaires, je pense.
Lucas ?
Alors, Apple, c'est un symptôme. Il y a un moment de tension unique dans l'économie et l'économie américaine, parce qu'il y a la même chose qui se passe chez Amazon, où des syndicats commencent à émerger, où il y a une tension sur la force de travail. Alors là, on est en ralentissement, on va voir ce qui se passe, mais l'économie étant surchauffe, il n'y a pas assez de force. Et la balance du pouvoir entre les employeurs et les employés est en train de changer. Et on voit beaucoup de mouvements sociaux aux États-Unis, ce qui est relativement nouveau.
On va dire qu'elle se rééquilibre un peu, parce qu'aux États-Unis, la balance, elle était vraiment très, très en faveur des patrons. On peut se faire, on peut se licencier du jour au lendemain. Oui, il y a pas de...
fallait remonter à plusieurs dizaines d'années avant qu'on voit les syndicats qui avaient un vrai pouvoir.
Et là, ils ont un pouvoir en négociation plus fort parce qu'ils ont accès à la force de travail et les patrons en ont besoin. Moi, j'habite en Angleterre, je suis venu aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une grève de.
Ah oui, en Angleterre,
en Angleterre, une grève du rail. Alors d'habitude, c'est quand je vais en France que je trouve la. Donc c'est en train de changer. Les tensions sur le marché du travail sont en train de créer un changement de rapport de force entre les employeurs et les employés.
Eh bien, on va continuer à parler de tous ces sujets dans un instant. Le journal de l'écho avec Younsi, puis on retrouvera nos trois experts d'ici une petite dizaine de minutes pour continuer à débattre de l'actualité jusqu'à 22h. Je vous le rappelle, on est ensemble dans Tech & Co sur BFM Business. Allez, tout de suite, le journal de l'écho.
Tech & Co, le débrief de la tech.
Allez, débrief de la tech avec nos experts. Lucas Perraudin, fondateur de Mula Digital. Jérôme Marin, fondateur de Cafetech.fr. Pascal Samama, journaliste à la rédaction de BFM Business. Et Alexia Bor qui nous a rejoint. Bonsoir.
Bonsoir.
Alexia, on se retrouvera dans un instant pour parler emploi et métaverse. On en parlait tout à l'heure. Eh bien là, on va voir comment le métaverse créateur de nouvelles opportunités, notamment pour les seniors. On en reparlera dans un instant. Mais avant, on va débattre de sujets sur la crypto. Alors, c'est le crypto crash. Alors, messieurs, allez, qui lance les débats? Donc, les valeurs des cryptos divisées par 3 en 2 mois, les régulateurs qui commencent à se poser des questions. Alors certes, il y a un contexte économique global qui fait que les valeurs comme les cryptos sont un peu moins attirantes, hein, mais quand même, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Il y a Coinbase qui licencie. Lucas?
Il y a définitivement quelque chose qui se passe. Ouais. Si en quelques semaines, on est passé de 2,1, je crois qu'au début de l'année, on devait être à 2,1 billions, donc milliers de milliards en valeur totale dans la crypto, et aujourd'hui on est en dessous du billion.
Oui.
Donc
on voit le coup de, enfin si on prend juste celle qui est la plus connue, le Bitcoin, hein, la crypto-monnaie la plus connue, elle est à moins de 20 000 là aujourd'hui.
Elle a été à 60 000,
voilà. 69 même.
À son pic. Après,
crypto crash, crise d'adolescence, et puis ça repartira, ou il y a un phénomène. Alors, ce que l'on voit quand même, c'est ce que je disais très rapidement, c'est que c'est lié quand même à des phénomènes macroéconomiques. L'argent devient plus cher, donc du coup, il y avait aussi les gens s'étaient détournés vers les cryptos parce que le monde économique traditionnel était un peu moins intéressant.
Bah évidemment, l'histoire des cryptos. Je crois qu'on peut pas rentrer aborder le sujet des cryptos en donnant des réponses. C'est des questions qu'il faut se poser. Et le problème, c'est qu'il y a un tas de gens qui sont rentrés dans les cryptos. Pardon ?
Moi, je veux des réponses quand même.
Ah bah oui, mais je vais poser des questions et Lucas aura certainement. Le problème de la crypto, c'est quoi ? C'est la crypto vient pour essayer d'imposer ou de s'immiscer dans une gestion de régulation, la régulation des monnaies, pour apporter d'autres façons de générer de la richesse. Aujourd'hui, la crypto tombe, elle a séduit un certain nombre de personnes. Est-ce que la crypto devait être autant généralisée, autant être popularisée? Et aujourd'hui, en tombant, est-ce qu'il va falloir réguler les cryptos? Mais en régulant les cryptos, est-ce que les cryptos vont pas perdre de leur avantage? C'est ça les questions qui se posent aujourd'hui.
On rappelle quand même, il y avait une étude qui était sortie qui disait qu'il y avait plus de Français qui avaient acheté des cryptos qui avaient un portefeuille boursier. Hein. C'était quand même.
Est-ce que ça va pas faire un crash social, ça?
Jérôme?
Non, mais moi, je suis assez d'accord. Après, c'est vrai que les cryptos. En tout cas, moi, j'ai l'impression que la promesse était assez simple de la crypto au départ, et qu'aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de tellement compliqué que c'est difficile de savoir ce qui se passe, en fait. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne suis pas un expert non plus, mais entre le Bitcoin et puis tous les produits dérivés qui ont été créés, on a l'impression qu'il suffit d'un petit grain de sable pour faire tout dérailler, quoi. Un peu comme les subprimes à l'époque où on est dans un autre univers. Mais c'est un peu la même chose. Et finalement, c'est un produit qui était simple et on a un produit qui est extrêmement complexe et des investisseurs particuliers qui n'ont pas forcément les connaissances nécessaires et qui n'ont pas non plus l'idée qu'on peut perdre de l'argent aussi. Ouais. C'est que les cryptos, on a vendu, ça monte toujours, on est passé de 3 000 à 69 000. Ah, c'est génial, on va gagner de l'argent. Et puis on est passé, on a perdu x 3, on a été divisé par 3 en quelques mois. Donc il y a une vraie question aussi sur ça, quoi.
Lucas?
Ouais, alors la crypto, c'est vertigineux. Le nombre de questions qui se posent derrière la problématique. Alors la première problématique est une idéologie qui dit que la décentralisation, c'est mieux que la centralisation. Donc il y a des gens qui ont venu de la technologie qui ont dit les banques centrales ça sert à rien, la politique monétaire ça sert à rien, on ne peut pas faire confiance au gouvernement, on va vous créer un protocole universel et on va
inviolable, etc.
Voilà, alors en théorie inviolable,
c'est vrai,
et qui ne sera pas soumis aux banques centrales.
qui ne sera pas soumis aux banques centrales, à la politique. Il n'y a pas de politique monétaire.
Il n'y a pas de politique,
alors, politique monétaire, c'est celle du réseau ou celle de certains membres du réseau, etc. Mais en tout cas, ça sort du giron des États. Ce qui est fascinant, c'est que on a regardé. On a dit, OK, allez, on y va. Et donc déjà, il y a cette première problématique. Et là, je pense que de toute façon, la régulation va venir parce que, encore une fois, la monnaie, c'est une tâche régalienne de l'État. Quand il y a de l'inflation et que le nombre de bitcoins est limité par design, c'est-à-dire que le nombre de bitcoins dans le temps, on sait déjà combien ça sera, il est limité par design. S'il y a moins de blé sur le marché, qu'il faut plus de bitcoins pour l'acheter, mais qu'on ne peut pas imprimer du bitcoin, tout le monde est appauvri. Mmh. Tout le monde est appauvri. Et les pauvres sont plus pauvres, sont encore plus impactés que les autres. Il y a des problématiques, encore une fois, qui sont vraiment fascinantes et abyssales, quoi. Donc, sur lesquelles il faut se pencher. Donc, la régulation va arriver. Et ça, on a Gary Gensler aux US, qui est le patron de la SEC, très très fort dans cette problématique. D'ailleurs, il a un cours MIT qui est disponible sur YouTube. Bon, c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de vidéos, mais je vous invite à le regarder si vous avez envie d'apprendre plus. Qui disait, d'abord, on ne sait même pas si c'est un asset ou une commodité en anglais. On dit donc une matière première ou une monnaie ou un actif. Si la crypto est introduite par des sociétés qui ont intérêt à ce qu'elle monte, alors c'est un actif, c'est une action, ce n'est pas une monnaie. Parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à le faire monter artificiellement.
Et puis on a vu des pays qui sont qui c'est Salvador qui a dit
Salvador
au Costa Rica ou Salvador
et là en ce moment ils se posent des problèmes. Donc ça, le premier problème, c'est idéologiquement, est-ce que les gouvernements sont mauvais pour l'humanité, est-ce que les banques centrales sont mauvaises pour l'humanité. C'est une question qu'on peut se poser, mais je pense qu'il faut qu'on ait le débat avant d'y répondre. La deuxième qui est intéressante, c'est qui a perdu de l'argent dans le crash de la crypto. Alors des fonds, plein de gens. Il s'est trouvé également que la crypto, ça a été énormément gamifié. On a eu beaucoup d'influenceurs qui, malheureusement, ont influencé des gens sur leur réseau en disant « achète tel token, achète tel coin, je sais quel sera le prochain, t'inquiète pas, ça descend jamais ». Des gens qui ont mis leurs économies de leurs parents, des gens de milieu populaire. Mm-hmm. Encore une fois, c'est des produits qui sont hyper complexes. Moi, je suis très intéressé par le sujet. Il y a des produits qui sont des dérivés et pour lesquels le collatéral de garantie, c'est un NFT.
Oui.
Un subprime à côté, l'histoire du subprime, c'est hyper simple.
Mais hyper accessible. On ouvre un compte et puis on remplit son numéro de carte bancaire, puis hop, on achète.
Voilà, et puis tel influenceur me recommande, et puis ça montera toujours.
Il n'y a pas de régulation sur ça, en fait.
Donc c'est pas régulé.
Sur les investissements, quand on fait des conseils en investissement, il y a une régulation qui existe. Sur les crypto-monnaies, il y a une zone de flou, en fait.
Parce qu'on ne sait pas de quelle classe d'actifs il s'agit. Si ça rentre dans une classe d'actifs qui est celle des actions, alors c'est du conseil financier, etc. Et toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont plutôt modestes, qui ont mis de l'argent dans la crypto. Ça a été hyper gamifié, c'est un espèce de pari en ligne, et qui ont perdu beaucoup d'argent. Donc ça joue au niveau étatique et au niveau individuel. Donc c'est bien, c'est pas bien pour ces gens, mais qu'il y ait un crash et qu'on se pose des questions de la réglementation et notamment de quel type d'actifs financiers il s'agit et sous quelle réglementation ça doit être tradé, c'est très très important.
Oui, puisque ce que l'on voit, c'est qu'en plus, ça c'est pas autorégulé, mais enfin on voit quand même, voilà, il y a un phénomène qui a embarqué un peu tout le monde. Il y en a pas un qui s'en est sorti, puis il y a d'autres qui sont plantés. On voit que, même ceux qui avaient des portefeuilles, les Coinbase et tout ça, eux, ils licencient. C'est un peu tout le monde. Ah oui, il y a quand même quelques-uns qui s'enrichissent.
Il y a beaucoup de gens qui sont enrichis. On peut faire du short sur la crypto,
c'est vrai.
Sur les actions. Franchement, les initiés se sont beaucoup enrichis. Il y a beaucoup de gens qui sont enrichis, qui s'enrichissent encore quand ça monte, quand ça descend. La volatilité, c'est l'ami de la finance. C'est simple, la stabilité, c'est pas pour un financier, un spéculateur, c'est pas très intéressant. Donc c'est hyper volatile, donc il y a eu beaucoup de fortunes qui sont faites et défaites avec la crypto là.
Une toute petite minute et après on passera à Alexia. Google et les droits voisins, Jérôme, là, ouais, que tu as regardé ça comment?
Moi je trouvais ça intéressant que Google, alors juste une anecdote, en 2014, Google, moi j'avais rencontré le patron de Google News qui disait jamais on payera pour les droits voisins, quoi. On préférera fermer, c'est ce qu'ils ont fait en Espagne, ils ont fermé Google News en Espagne.
Aussi, c'est ce qu'ils ont fait.
En Australie, c'est encore en cours. En Espagne, en 2014, ils ont fermé Google News, ils vont le réouvrir parce qu'il y a une directive européenne. Donc là, ils sont un peu, on fait un peu le bon élève, quoi. Moi j'ai l'impression que c'est plus de la relation publique en se disant ça ne nous coûte pas grand chose, on fait une bonne action envers la presse, on se débarrasse d'un petit problème parce que c'est un problème du fait qu'on en parle tout le temps. Ils ont accepté en France de verser les droits voisins à toute la presse. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est les 1300 titres de presse et pas que les gros, parce qu'au début ils avaient négocié qu'avec les gros. Donc là tout le monde va en profiter. C'est des sommes, on ne sait pas exactement quelle sera la somme, mais en tout cas c'est pour eux c'est ça coûte pas très cher et c'est une bonne action qui ils se débarrassent d'un petit problème de relations publiques.
Bon voilà, fallait couvrir quand même un petit peu cette news de la semaine. Merci à tous les trois. Lucas Perraudin, donc fondateur de Mula Digital, Jérôme Marin, fondateur de Cafetech.fr. Très content de te revoir parmi nous. Et Pascal Samama, journaliste à la rédaction de BFM Business. Messieurs, vous restez avec nous. On accueille Alexia, mais tout de suite après une petite seconde de jingle. On est parti, c'est l'heure de la chronique web 3.0 avec nous sur le plateau, donc Alexia Bor, gros bonsoir, qui va répondre à la question de Nicole Fiorentino, responsable recrutement et gestion des carrières au Crédit Agricole Immobilier. La question de Nicole est la suivante, est-ce que le métaverse favorisera l'emploi des seniors, c'est ça?
C'est ça. Eh bien oui et non, je dirais.
Ah bon?
Alors d'abord oui, parce que le métavers en lui-même, eh bien il est créateur de nouvelles opportunités, évidemment. La semaine dernière, souvenez-vous, je vous parlais des métiers immergés exercés par nos avatars et des métiers non immergés exercés par nous, les humains. Eh bien ce qui est intéressant pour les seniors, ce sont justement les métiers immergés. Pour l'instant, les avatars ne sont pas obligés de nous ressembler, donc les seniors peuvent essayer de supprimer les biais cognitifs de certains recruteurs et avoir un avatar beaucoup plus jeune, par exemple. Pour l'instant, aucune loi nous empêche de faire ça.
Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'éthique à intégrer quand même?
Oui, ça soulève un problème d'éthique, mais qui va d'ailleurs créer le métier d'éthicien du métavers. Donc voilà, encore un métier non immergé cette fois-ci, qui peut être très intéressant pour les seniors. Mais quand bien même les seniors souhaiteraient incarner un avatar qui leur ressemble, ils peuvent tout à fait être jardiniers ou encore agents immobiliers ou gardes du corps dans le métavers. C'est des métiers qui ne nécessitent aucune formation pour l'instant.
Encore faut-il que ces seniors s'y intéressent, hein, c'est ça?
Eh bien voilà, mais c'est exactement ça le sujet aussi. C'est-à-dire que là, je pense que c'est le côté non de la question. C'est parce qu'il risque d'y avoir un fossé numérique beaucoup plus important. Comment donner envie aujourd'hui aux seniors de s'intéresser au métavers alors qu'ils peinent déjà à s'intéresser aux outils digitaux actuels? Donc c'est assez compliqué. Et d'ailleurs, les chiffres ne sont pas très rassurants puisque selon le baromètre 55+, 2 seniors sur 3 affirment utiliser Internet que très rarement.
Alors justement, vous que connaissez bien les RH, Alexia, quels conseils donner aux RH? Voilà, est-ce que la formation doit être l'une des solutions dans ce domaine?
Alors oui, clairement, la formation est une solution, mais avant même de parler de formation, je pense qu'il faudrait mettre quelques dispositifs en place, comme par exemple le reverse mentoring. Ça marche très très bien, de grands groupes l'ont déjà fait, comme le groupe Bouygues. Le reverse mentoring, c'est tout simplement les collaborateurs plus jeunes qui forment et accompagnent les collaborateurs les plus seniors à se familiariser avec le digital, avec les outils du numérique. Ça marche très très bien, on pourrait l'imaginer tout à fait mettre en place ça pour le métavers. En tout cas, c'est
et bien possible. Voilà, on va continuer à suivre ça de très près. Merci Alexia Bord d'avoir été avec nous, puis n'oubliez pas la chronique Tech RH, c'est tous les jours.
C'est le samedi à 18h et le dimanche à 9h30.
Voilà,
tous les jours encore,
voilà.
mais
tous les jours ça viendra. Allez, merci en tout cas d'avoir été avec nous, merci de nous avoir suivis sur BFM Business Tech & Co. C'est encore quelques petites minutes jusqu'à 22h. Oh là.